dans le tempo, c'est parti pour l'épisode 30.
Bah voilà, épisode 32 dans le tempo, ça va Salman ?
Bah écoute, pas mal. On oscille quand même entre la pluie, le beau temps, il fait froid,
ouais,
c'est dur.
Ouais. Il a fait beau pendant un court instant, il a plu quand j'étais dessous. Donc voilà, Mais c'est Dieu, que voulez-vous faire ?
C'est vrai. Ah, qu'est-ce que t'en penses Pierre, toi,
de Dieu ? De Dieu ? On y va directement.
On y va directement, ça t'aime ou pas ?
Le droit à la caricature. Oh là, ça, je pensais que c'était une émission
musicale.
Pas sans enjeu, quoi.
Non, il y a de l'enjeu quand même, mais effectivement, on reçoit aujourd'hui Pierre Lapin.
Ouais.
Créature d'internet, homme de tous les talents,
wow.
J'ai envie de dire, le mec est partout et nulle part à la fois, l'ubiquité.
C'est vrai. Meilleur nom d'internet, on peut le dire aussi, meilleur nom ou pas ?
Pierre Lapin ?
Ouais.
Pire nom en termes de référencement.
Non, c'est pas.
Bah
ouf,
oui, c'est la
erreur totale.
Mais
comme dans tous mes projets de ma vie.
Mais c'est vrai que Pierre Lapin, tu tapes dans Google, on tombe pas sur toi.
Hein. Ah, c'est une catastrophe. Avant, j'avais un site, c'était bien de ma part, j'étais premier. J'ai plus fait de site. Je refasse un site.
Okay.
Non, mais dans tous mes projets, j'avais un truc qui s'appelait le club. Pire truc.
Ouais, pareil. Ouais.
Laserdisc, en vrai, c'est vraiment un format. Laserdisc, peut-être un peu mieux. Non, à chaque fois un fiasco, quoi.
Mec d'internet, tu disais, c'est ça, il maîtrise internet, ouais.
Non, okay. Mais pas le CEO.
Non,
mais plutôt le lifestyle, les trends.
C'est vrai.
Ouais, je suis très curieux.
Ouais.
Il se bute à TikTok, notamment.
Oui.
Oui. Et moi, je vous conseille de le suivre sur Twitter, comme ça, vous avez vraiment que la crème de TikTok.
Absolument.
Sans devoir vous-même mettre les mains dans le cambouis, tu vois. Un peu un curateur.
C'est ça.
Médaz, on parle de musique dans cette émission, on est d'accord?
Oui, c'est vrai.
Quels sont les liens entre Pierre et la musique?
Oh, ils sont multiples.
Oh oui.
Oh. Les liens, déjà, il a une émission musicale sur Twitch.
C'est vrai.
Laserdisc.
Absolument.
Avec Arte.tv. Hein,
exactement.
Donc, pas n'importe qui, tu vois.
Ouais.
Il est photographe de concert.
C'est vrai.
Entre autres, ouais.
Entre autres. Il a lui-même tâté d'un instrument à un moment donné.
C'est
je veux
vrai.
Dire.
Guitariste émérite.
J'ai été sur scène aussi devant des milliers de personnes pour le jour de mon anniversaire aussi. Il y a
c'est
des
vrai.
Vidéos sur YouTube.
C'est vrai?
Oui.
Il va bien voir ça.
Non. Oui, c'est vrai.
Ok, donc Pierre...
J'ai filmé aussi.
T'as filmé aussi?
J'ai fait pas mal de trucs avec The Do.
Ok.
Et pour leur session Pigalle, c'est moi qui ai cadré avec le réalisateur Frank Seller aussi.
Ok.
Et surtout leur album Boswell Open Jones.
Ok.
Un des albums favoris de Billie Eilish apparemment, c'est très drôle. Et du coup, ouais, j'avais pu cadrer aussi et tourner avec eux et tout ça, ouais.
Donc la musique, alors parce qu'on sait que tu, ça fait des années que tu traînes sur internet, t'as fait différents formats, l'un des plus célèbres ces derniers temps c'était certainement 301 vues avec Cyprien.
Entre autres. Participé à l'écriture, j'ai l'impression, participé à l'écriture et co-présenté avec lui, ouais.
Okay.
Entre autres.
Ça continue ou pas ça?
Ah.
Okay. Cyprien, mon CEO, est très occupé, donc je pense que ça reviendra, sous quelle forme je sais pas, et tous les combien de temps je sais pas.
Ok.
Parce que j'ai vu qu'il s'était réconcilié avec Cortex, donc.
C'est vrai, hier soir, effectivement,
tout
ça.
Arrive, un autre lien avec la musique.
C'est ça, exactement.
C'est Cortex, grand rappeur.
Tiens, voilà. C'était très gênant à regarder. Mais je sais pas s'il a bien apprécié. Mais voilà, pour le contenu, le buzz, il faut le faire.
Moi, ce que je vous propose, c'est, on voulait te recevoir, Pierre, parce que on n'a pas encore trop traité de Twitch. Dans cette émission, notamment du contenu musical évidemment sur Twitch, et étant donné que c'est une plateforme qui te passionne et que tu adores la musique, ça nous paraissait approprié voilà d'en discuter avec toi. En gros, un peu quelle place a la musique sur Twitch. On parlera aussi de tes autres activités et de photographie de concert notamment, etc. Mais c'était un angle vraiment que je trouve intéressant et qui j'espère intéressera aussi nos auditeurs. Et peut-être qu'on peut commencer tout simplement en s'interrogeant sur le contenu musical Twitch, sur cette diversité. Moi, le premier truc qui me vient en tête, évidemment, c'est des musiciens font de la musique sur Twitch. Est-ce que c'est un truc qui est courant? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Et notamment, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un moment, le confinement au plus fort de la pandémie, il y avait eu une espèce de boom extrêmement important, pas que sur Twitch d'ailleurs, même sur Facebook, etc., y compris des artistes mainstream qui s'y mettaient énormément. J'ai l'impression que ça retombe un peu. Ça en est où, le streaming live musical, et notamment sur Twitch?
Justement, de par le confinement, ça a montré à beaucoup de gens qu'il y avait des possibilités là-dessus.
Ouais.
C'est vrai que tout le monde s'est un peu rapatrié là-dessus, parce qu'il y a le contact directement avec les gens. ce qui peut manquer à YouTube, et YouTube était un peu en perte de vitesse aussi.
Parce que peut-être qu'on peut rappeler, c'est vrai, pour les moins éclairés qui nous écoutent et nous regardent.
Quand même pas Twitch, rappeler,
qu'est-ce que c'est?
Ouais, mais plateforme quand même de streaming vidéo. Tu penses que... Mais recontextualisons un tout petit peu.
Si, ma mémé qui écoute ça.
J'espère
déjà ce que c'est Twitch. Pour les autres mémés.
Oui, pour les autres mémés, ok. Bon, bah Twitch, c'est donc de la diffusion en direct de contenu vidéo.
Ouais.
Et du coup, pas que, enfin tout ce qu'il y a autour, du moment que t'as une caméra chez toi et une connexion internet qui tient, tu peux balancer ce que tu veux, ouais, quitte à te faire striker derrière, mais bon, ça c'est un autre sujet.
Il y a souvent avec la musique.
Oui, voilà, d'ailleurs. C'est ça aussi qui est marrant.
Un des problèmes.
Et avec un aspect communautaire très affirmé sur Twitch.
Ah bah t'es en direct avec, avec ta communauté.
Ok.
Peut-on parler de communauté avec ta tribu?
100% commu.
Oui, voilà. Donc effectivement, pour le meilleur et pour le pire.
Ouais.
Ça fait partie du jeu, mais effectivement, au moins l'artiste a un feedback instantané
avec un chat.
Voilà, exactement. Okay. Donc les gens réagissent en direct et ça permet à l'artiste de voir un petit peu. Déjà, ça permet parfois aux artistes aussi de décider de la programmation, parce que ils peuvent arriver. Nala le fait, par exemple. Ouais. Elle se pose sur Twitch, elle dit OK, vous voulez que je chante quoi, tu vois, et le chat peut choisir, et donc l'artiste, c'est vraiment interactif.
Absolument.
Multimédia, ouais, interactif, hein, j'ai envie de dire.
OK. Ouais. Et donc ça, clairement, on avait vu à un moment que beaucoup d'artistes s'étaient penchés sur cette plateforme et d'autres, mais quand même sur Twitch aussi beaucoup. Et est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce qu'on assiste à une autre étape dans la musique live sur Twitch?
Bah après, moi je sais pas, moi j'ai plus ressenti, comme tu disais, sur leur Insta et trucs comme ça, Twitch, ouais, c'était déjà des créateurs et créatrices qui étaient déjà un peu dans tout cet écosystème là, et que après je veux pas dire c'est peut-être pas l'ego qui les a poussés à ça, mais tu sais, oh, je suis là, j'existe toujours, je peux pas vous rencontrer, ou je peux pas faire de contenu puisque on pouvait pas faire de tournage, donc c'était peut-être plus ça qui a poussé. Ouais. Après, moi je sais pas si j'ai vraiment ressenti plus d'artistes. Après, il y avait cette volonté aussi plutôt par rapport aux concerts et de pas pouvoir faire de live.
Ouais.
Où c'est vrai que très vite, enfin comme des groupes, il y a eu Code Orange qui a fait très tôt un live Twitch.
Ok.
Je crois que c'est du plus en Pennsylvanie, ou je sais pas quoi. Enfin bref, dans où ils viennent, et c'est vrai que c'est venu très tôt. Enfin, je sais qu'il y avait, bah comment tu redéfinis là, il y avait Joji aussi qui avait proposé un live, mais c'était un peu en dehors de Twitch, mais tu devais payer et tout ça. Donc tout le monde a un peu se posé la question de comment on s'approprie les choses. Mais moi, j'ai l'impression que ouais, c'est plus autour de du live, enfin comment compenser le manque de live. Après, on a pu voir aussi apparaître des nouvelles narrations, nouvelles contraintes, un peu avec ce qui s'est passé sur Fortnite ou Roblox, où il y a des gros artistes de Ariana Grande
qui sont allés dans le jeu directement.
Qui sont allés directement dans le jeu, Lil Nas X, Pokémon, et tout
Scott,
ça.
Et
Travis Scott, Travis Scott, Fortnite, et tout ça, ouais. Après, pour revenir à Twitch, je pense que ouais, je pas plus ni moins. Après, il y avait toujours un noyau dur, bah, d'instrumentistes et tout ça qui partageaient des choses. Mais oui, si, fatalement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de rappeurs aussi qui ont tenté les choses. Enfin, même dans ces milieux streamers, rap, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges. Aurel Chan a fait beaucoup d'OPSP, Cobaladé... la fameuse fois où c'était pour Xbox.
Non, c'était pour PlayStation, et il disait
que l'Xbox était mieux.
Ouais, il jouait sur Xbox.
Un fiasco.
Meilleur marketing.
Mais là, c'était dû à des opérations et trucs comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça venait.
On a eu,
après, je sais pas.
Aux États-Unis, on a eu Snoop,
ouais,
qui s'est mis à streamer.
Absolument.
Bah, après, un peu avant le confinement, non?
Ouais, je sais pas si c'était pas pendant, en fait.
Parce qu'on l'avait accusé de pas réellement jouer.
Oui,
et c'était
une boucle.
Et que, là, il était juste à chiller. Enfin, même les gens se demandaient si c'était vraiment live.
Je crois que T-Pain aussi.
T-Pain incroyable,
ouais,
qui est devenu un peu bah, carrément streamer,
ouais,
mais un peu en confinement, parce que je sais qu'il avait pas mal de parties d'Among Us avec les plus gros Pokimane et tout ça.
J'ai presque l'impression que Twitch est une plateforme tellement particulière avec une culture qui lui est propre.
C'est ça.
Que c'est pas forcément celle sur laquelle des gens extérieurs, artistes, iraient directement pour faire du live. Mais par contre, on voit la naissance d'une culture Twitch chez les artistes, ou
c'est
alors
ça,
même
plutôt,
d'artistes qui naissent sur Twitch.
Non, et puis je pense que toi, t'es artiste, tu te fais chier en tournée, donc tu game en fait. Donc ils voulaient juste s'amuser à faire des jeux vidéo, mais ils vont pas amener leur art dans le truc, ils sont juste curieux de ça. Et oui, rencontrer leur public là-dessus, mais en dehors de la musique, en fait.
Exemple le plus fou, c'est Vald, le rappeur Vald, qui sort un morceau qui s'intitule Gotaga. Alors Gotaga n'est pas seulement un streamer, mais on sait qu'il y a un amour pour Twitch de la part de Vald, etc. Et même qu'il prend plaisir à apparaître dans des
lives. C'est ça, très fan de Mr. MV aussi.
Ouais.
Non, mais c'est trop drôle, parce que en fait, les artistes consomment en fait de l'internet et ils sont curieux. Enfin, moi j'avais un autre format aussi qui s'appelait YouTube sur YouTube, où on aimait bien aller rencontrer des personnalités pour voir un petit peu c'est quoi leur culture internet. Et c'est vrai qu'on se disait que bah on va vite tourner en rond avec le chien qui fait du skate et le black ninja qui fait des saltos, mais en fait sur, je sais pas, presque une centaine de formats, il y avait toujours un truc et c'était intéressant de voir que les artistes consomment YouTube comme tout le monde et ouais ils sont chiés. Et
ils sont comme nous,
ils sont comme nous, ouais, littéralement, ouais. Mais ouais, mais après la musique sur Twitch, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un truc trop post confinement, quoi. Ouais. Parce que c'est non, je sais pas.
Peut-être les autres, peut-être les autres réseaux, ouais, parce que c'est aussi à ce moment-là que genre le format versus est apparu là, tu sais, sur Insta où les mecs se déchirent.
Ah les duets là.
Ouais.
Ah oui.
Mais même, enfin les carrément les bastons, hein, entre bah quand DMX était encore vivant, DMX contre les Lox, Snoop contre je sais plus qui, machin, etc. Et ça, j'avais l'impression que c'était vraiment lié à la pandémie où tu sens vraiment les mecs qui sont chez eux.
Bah, c'est ça.
Et bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire, je sais pas, bah vas-y viens, on va se friter entre nous et Bone Thugs and Harmony et puis ça balance les classiques et avec une bande son les mecs rappent dessus ou pas d'ailleurs machin, ils se mettent un petit peu en scène.
C'est vrai qu'il faut certainement un peu distinguer les différents canaux parce que d'ailleurs je vous invite éventuellement à regarder une vidéo que j'avais faite sur est-ce que justement l'avenir de la musique et la musique live sur internet etc. Je parlais aussi de la dématérialisation entre guillemets des artistes. Il y a l'exemple Atsunemiku, etc. Donc, on crée des IA ou tout simplement des personnages fictifs musicaux, etc. Donc il y a plein de choses qui se font, mais c'est vrai qu'on va essayer de se concentrer, on en discutera à la limite dans un autre épisode de tout ça, mais se concentrer sur Twitch. Il y a par contre, je le vois, j'en connais même quelques noms, et peut-être que tu vas nous aider à y voir un peu plus clair, à nous citer quelques personnes aussi, qui sont des gens, alors quelle est leur ambition initiale, je sais pas si c'est d'être streamer, si c'est d'être artiste, ouais. Mais qui mêlent les deux et qui alimentent un peu mutuellement le truc. Je sais pas, un type Stevens, par exemple, on l'évoquait avant l'émission. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes, entre guillemets, qui sont streamers, et où on n'est plus capable de savoir réellement qu'est-ce qu'il fait, mais, enfin, est-ce qu'il est streamer ou artiste, mais en tout cas, il fait de la musique sur Twitch, quoi.
Ouais, il fait de la musique sur Twitch, ouais, mais ça, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression de voir plein de streamers qui voulaient faire de la musique. Enfin, Zerator qui va faire un concert, Little Big Whale qui va faire un concert, que dans tous les Donation Goal du The Event, faut faire un clip de rap, faut faire un morceau, enfin, il y a Dua Lipa et trucs comme ça. Je vois plutôt les streamers qui veulent être musiciens, les musiciens, bah.
Dans la droite ligne des youtubeurs.
Les
en
musiciens,
fait.
Surtout, ils font de la zik et des trucs comme ça, après, s'ils se croisent et tout. Mais ouais, j'ai plus l'impression que l'attrait, il se fait dans l'autre sens. Okay. Et que...
En tout cas, l'attraction qu'il y a actuellement pour ce truc-là, effectivement, c'est plutôt des gens qui étaient d'abord streamers, qui avaient toujours eu peut-être une sensibilité musicale, etc., et qui décide de l'assumer, entre guillemets, et de dire, OK, je fais aussi du son à côté, et puis qui profitent, en fait, de la communauté qu'ils ont pour leur proposer leur contenu.
Ils profitent de l'attrait.
Ça l'énerve.
Non, je sais pas, mais ils profitent aussi de l'attrait des musiciens pour la plateforme. Enfin, on t'a pu voir avec Squeezie aussi, ce qui s'est passé avec Mid. Ouais. Enfin, je sais que moi, avant la rencontre Squeezie et Mid, je parlais beaucoup et lui, il rêvait de faire des trucs avec des youtubeurs. Et puis aussi, pour les créateurs ou créatrices, ça permet aussi de, je sais pas, de légitimer leur posture d'être les guignols d'internet. Ils s'acheter un peu une street cred ou de proposer un peu de trucs, ça peut passer par là. Enfin, je sais pas.
D'où le rap, d'ailleurs.
Ouais, entre autres. Bon, après, c'est.
C'est générationnel aussi.
Je pense aussi. Ouais. Mais après, j'ai l'impression que c'est plus les streamers qui vont vers la musique.
Parce que.
Enfin, les streamers.
Installés,
ouais. Gamers, React.
Non, tu me disais que je sais pas si c'était ma mimique ou quoi. Ça. Non, c'est juste que ça interroge toujours. On en avait parlé d'ailleurs avec Chrono une fois. C'est après le succès du trio là. C'était merde le nom déjà. On pépénait.
Très DJT.
Absolument. Et c'est tout, parce que il y a les exemples de. Moi, je pense tout de suite à Mr. V qui a fait une carrière musicale entre guillemets. T'as Seb Lafrite.
Michou,
c'est vrai.
Michou aussi fait des trucs. J'ai le même label, enfin avec Allpoint qui était Jules aussi finalement.
Ah ouais.
Allpoint Music qui avait essayé d'aller draguer les gens de cette sphère-là, quoi. Non, après je dis aussi la réflexion, je pense à la ZDKK Mixtape. au lieu d'apporter vraiment la musique, c'est un outil promotionnel ou un outil pour exprimer son art plutôt que...
Là, c'est complètement différent, effectivement, ouais. Je suis d'accord. Mais sur ces youtubeurs, streamers, etc., qui se lancent dans des projets musicaux, alors à différentes échelles chacun, moi, j'ai aucun problème avec ça, c'est juste, ça interroge toujours sur... Déjà, j'aimerais bien avoir leur sentiment, d'un point de vue, si ce n'est légitimité, en tout cas, leur rapport à la musique et le fait de s'adresser à un autre public, de, en même temps, d'être rattaché comme à une communauté initiale, et il faut, mine de rien, la prendre en compte, j'imagine qu'on fait ça.
Je sais pas s'ils s'adressent vraiment à un autre public ou s'ils amènent leur public à eux s'intéresser peut-être à un style musical qu'ils n'auraient pas capté si leur streamer n'était pas dessus.
C'est possible aussi.
Parce que je doute que qu'un Squeezie se dise... Je vais sortir un album qui va plaire aux puristes de hip-hop, quoi.
Non, mais en l'occurrence, franchement, Squeezie, je l'ai déjà entendu s'exprimer là-dessus, et il a toujours clairement dit, et ça, je trouve ça assez honnête de sa part, de dire, moi, je suis un youtubeur à la base.
Ouais.
Et lorsque je fais de la musique, je garde en tête que je suis youtubeur, et j'en joue, et je m'adresse aux mêmes gens qui me suivent. Je veux pas me détacher, faire genre, non, mais ça, c'est autre chose. C'est pas pour vous. Ça, c'est oui, pour les gens qui aiment la musique, etc., tu vois. Et je sais pas si c'est l'intention de tous, mais en tout cas, il me semble que c'est un truc qui ressortait du discours de Squeezie.
Ouais, et puis je trouve que ça marche.
Ouais.
Oui. Et puis même à qui s'est entouré, enfin, tu vois, il y a Sam Tiba, Club Cheval, Mid, je crois que Can Blaster aussi, ils ont taffé là-dessus. Mmh. C'est trop drôle. Il sait pas aussi dire, ah, je vais faire du rap ou quoi que ce soit. Enfin, il vibe, en fait.
Ouais.
Et ça marche bien, je trouve. Et puis après, ce qu'il a fait avec Chrono, Zizi Kaka. Ouais. Et, ouais, non, moi, j'ai bien, moi, enfin, ouais, que je dis, je vais pas racheter une légitimité, mais c'était pour, ils explorent d'autres trucs et je pense qu'ils ont envie d'un peu, consommer autre chose et puis de pas s'enterrer sur un truc, et c'est vrai que la musique, ça peut être une solution pour eux, quoi. Et puis je pense que tout le monde aussi consomme la musique et attiré par ça, quoi.
Le seul truc qui pose, enfin qui moi en tout cas me pose toujours question, c'est
ça pose question, ça pose pas problème, ça pose question.
Bah, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, c'est de se dire, tu jouis à la base d'une reconnaissance, d'une communauté, de moyens,
que tu es allé chercher,
de moyens financiers aussi,
que tu es allé chercher, ça tombe pas du ciel non plus.
Non, mais c'est évident, et faire de la musique, si t'adores ça, c'est trop bien, tu vois. Moi, je pousse tout le monde à faire de la musique, qui que tu sois, c'est trop cool de sortir des albums, etc. Mais c'est vrai que parfois l'exposition derrière dont ils bénéficient, elle peut être un peu frustrante par rapport à des gens qui eux viennent d'une sérail avant tout musicale et qui est plus fermée, en fait. Bon.
Moi je suis d'accord avec ça, mais dans ce cas-là, les mecs qui viennent du sérail musical, ben jouent à Among Us et jouent à Call of. À un moment donné,
peut-être.
Non, mais je comprends le seum.
Ouais. Non, mais c'est pas du.
Enfin, parce que j'y ai pensé aussi, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, mais quand même, le mec, regarde, il arrive avec des gros moyens, il sort un truc. Imagine tous les mecs qui galèrent et tout. Mais en même temps, je dis, ben, il fait ce qu'il peut ou veut faire avec les moyens qu'il a, et donc à partir de là, enfin, je veux dire, tu peux pas être rageux contre
non. Après, on peut aussi dire quand même qu'il me semble que la proposition musicale souvent est assez calibrée derrière. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas seulement une intention.
C'est une façon élégante de dire que c'est de la merde.
J'irai pas jusque là. En plus, ça dépend. Mais tu vois, typiquement, j'ai déjà lancé des invitations. Bon, j'ai jamais eu de réponse. Mais à Mister V, à Seb, pour justement qu'ils viennent dans l'émission et qu'ils nous en parlent de leur rapport à ce truc et qu'ils nous disent, parce que tu vois, moi, je veux pas parler à leur place non plus. Mais c'est vrai que dans quelle mesure il y a une volonté, une velléité artistique, que je comprends légitimement, tu vois. Enfin, c'est légitime. Et en même temps, bah, le produit final, ça reste un produit extrêmement commercial. Et est-ce que c'était leur intention ou pas? Est-ce que, tu vois, c'est pas qu'il y a que l'amour de la musique, certainement en partie.
Moi, je sais pas si, je pense pas qu'il y ait ce genre de calcul, justement, parce que pour eux, c'est plus un side project qu'autre chose.
Ouais.
Je pense pas qu'il y ait un calcul à base de, je vais faire un truc calibré qui va bastonner en radio. En fait, je pense que c'est plutôt, j'ai envie de faire du son qui me plaît. Et il se trouve que les gens, ils ont les goûts qu'ils ont. Et ils font un truc qui, au final, te semble, toi, calibré, etc. Mais je pense que la démarche, elle est un peu honnête. Je suis pas sûr vraiment il y a un pur gros calcul commercial. En tout cas, pas dans les premiers... Enfin, les early stages, tu vois, du truc. Après, effectivement, au fur et à mesure que la prod avance, ils se disent peut-être, oh putain, il y a moyen de tourner sur Energy et Fun Radio, qui sont des radios jeunes. Mais je suis pas sûr que ça soit ce truc-là qui drive la démarche artistique au départ. Après,
plus trop maintenant. Ouais. Ça aurait pu être une époque, parce que quand tu vois les stats de YouTube, et sur les vidéos les plus vues, c'est souvent des clips, quoi.
C'est vrai.
Ouais. Donc ça peut être aussi une méta de dire, on va faire un clip qui tout le monde va revoir et ça peut t'apporter de l'argent. Enfin, je suis pas complotiste, mais c'est factuel. Enfin, quand tu vois l'assassin des Templiers.
Je suis pas complotiste.
Non, mais.
Putain, mais cette époque est terrible. Je suis pas complotiste.
On pourrait voir, oui, c'est effectivement l'assassin des Templiers qu'il avait fait Norman. Il y avait le Mario Clash Mario Luigi. Enfin, même tu vois l'impact culturel du Clash Cortex Cyprien.
Ouais.
C'est vrai que c'était une méta aussi de faire de la zik pour YouTube. Je pense qu'on en est parti de là.
Ouais,
mais...
ouais, non, c'est vrai.
Fait Overwatch aussi. qui avait grave fonctionné. Je crois que c'était une des vidéos les plus vues de cette année-là. Mais ouais, on se posait des questions. Mais ouais. Mais maintenant, oui, non, je doute pas de. Je pense pas. Mais je pense qu'ils ne visent même pas les radios. Je pense que c'est impossible pour eux, quoi. C'est
pour ça que quand on voit les Squeezie en l'occurrence, si avec
oui, Trade DGT. On a pu voir Trade DGT, mais c'était aberrant pour eux, quoi. Ils prenaient ça comme un jeu. C'est pas un truc qu'ils avaient calculé. C'est ça qui les excite aussi. Et je pense que c'est ça qui excite beaucoup de gens, c'est se réapproprier les trucs qu'on a toujours bouffé. Enfin, je sais pas, ce que je vois aussi sur Twitch, c'est enfin les concepts de jeu. Enfin, tu vois, des fois, c'est littéralement la famille en or. Enfin, c'est littéralement Fort Boyard. C'est littéralement des questions. Non, mais en vrai, tu vois. Ah, ouais. Mais juste, oh, on a vu ça, on a élevé avec ça. Bon, on va s'amuser, on s'en branle. Ouais. C'est ça que j'aime bien un peu tout ça porte. Et...
Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, après, là, je vais bitcher un peu sur Twitch.
Ah, parce que c'était pas le cas depuis tout à l'heure.
Non,
me prépare.
Non. Mais assumer, en fait, à ce moment-là, cette filiation. C'est-à-dire
que. Je crois qu'ils sont assumés.
Non, mais tu sais, on a parfois entendu le discours, genre, c'est pas la télé, c'est autre chose, c'est machin, etc.
Ah, ça,
c'est un peu la télé quand même, alors non, tu vois.
Ça, je suis d'accord.
Bon.
Mais c'est pas les mêmes qui disent ça.
Ouais.
C'est peut-être.
C'est pas les mêmes qui disent ça. C'est vrai que l'intérêt de Twitch initialement, c'est de dire on sort c'est de la vidéo. Donc forcément, quand on te met un contenu vidéo devant les yeux, généralement, tu t'attends à un certain type de truc, justement, à un calibrage.
Ouais, des codes
réutilisés, machin, etc. Et effectivement, bah, quand tu vois un beau plateau qui pourrait ressembler à un plateau télé, mais avec des mecs qui se tutoient au lieu de se
voir différents déjà,
et puis qui vont dans le dur assez rapidement, etc. Je pense que c'est jouer sur ce truc-là justement, plus que de se dire c'est pas de la télé au sens où la télé ça sera un truc sale, etc. Enfin, je veux dire, il y a plein de grosses boîtes qui rêvent de faire leur télé, de grosses boîtes sur internet, hein, qui dont le but ultime pour les commerciaux qui ont tous 50 ans là-dedans, là,
c'est la TF1,
c'est le live, bah tout ce que Webedia proposait, il y avait quand même une forte composante télévisuelle. Je sais pas si eux ils le faisaient au second degré, par contre.
Non.
Les gens qui étaient dedans, si, parce que moi j'étais dedans, je m'en rappelle. Mais je pense que ceux qui tiraient les ficelles, pour eux, ils étaient persuadés de réellement faire de la télé, tu vois. Donc, et moi je trouve ça cool que les mecs arrivent en se disant, ok, les codes on les a, on peut tourner autour, on peut les déglinguer, let's go, tu vois. Moi je trouve ça plutôt sain comme truc.
Mais d'ailleurs, on peut même se demander si la notion de télé, elle devrait pas être revue, parce que autant il y a un écosystème financier, etc., propre à la télévision, c'est indéniable, autant par contre les formes, elles peuvent être variées à la télévision en elle-même.
Ouais.
Et d'une certaine manière, est-ce que YouTube, Twitch, etc., sont pas le prolongement en termes de contenu audiovisuel de la télévision? Et est-ce que c'est pas de la télé aussi? C'est-à-dire qu'on dit que les jeunes regardent moins en moins de télé. Ouais, mais si t'intègres la VOD déjà, y compris la production télé, mine de rien, je pense qu'il y en a encore quand même pas mal, etc. Je me demande même si on devrait pas dire, bah, la télé, la sortir de l'outil en lui-même, tu vois, du hardware, de l'objet télé, et dire, bah, ouais, on s'inscrit un peu dans la télé.
Un truc tout con à rappeler, hein, l'URL de Twitch, c'est twitch.tv. Hein.
Ouais.
C'est vrai.
Et les gens ont des chaînes, avec des programmes. Donc, en fait, on reste dans ce truc-là. Les gens qui essaient de s'en détacher en mode, ouais, c'est pas de la télé, etc., je comprends. Le truc de rejeter un peu les vieux médias, dire ah, on est comme ça, c'est pas comme avant, etc. Mais au final, sincèrement, il n'y a pas 46 façons de cadrer 4 personnes sur face à des caméras de toute façon. Donc à un moment donné, oui,
c'est ça. Moi truc, je me rappelle, il y avait Sonia de Villers qui était sur France Inter avec l'instant M, et à un moment je sais plus s'il parlait de nous quoi que ce soit, et il disait ouais, bah Twitch un peu les guignolos d'internet. Enfin, elle a pas dit ça, Sonia de Villers, qu'on respecte, elle a fait beaucoup de choses et ça. Mais il y avait un côté littéralement, ah ouais, bah, les jeunes, ils disent que c'est pas la télé. Mais, littéralement, c'est de la télé, mais leurs approches, c'est genre, bah, ouais, il y a des chroniques, quoi. Enfin, tu vois, enfin, je dis, c'est comme une rédaction, enfin, tu fais ton intro, et voilà. Et ça y est, c'est de la télé. Je dis, bah, non. Après, il y a une réflexion plus poussée sur les codes visuels et trucs comme ça. Mais des fois, ouais, on en fait un peu des caisses, alors je dis, bah non, enfin, tu structures une émission.
Ton émission, il y a un conducteur, voilà.
Voilà,
il y a un conducteur. Ah, bah c'est de la télé s'il y a un conducteur. Bah non, c'est juste qu'on structure le truc parce qu'il y a un peu d'édito, qu'effectivement, il n'y a pas 77 façons de cadrer 4, 5 personnes qui parlent autour d'un plateau. Donc oui, fatalement, ça va ressembler à la télé. Maintenant, est-ce que ce qui compte c'est l'emballage ou c'est le fond,
En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que sur Twitch, on peut voir par exemple pendant 3 heures de suite un mec composer de la musique.
Ouais.
Et ça, on le voit pas à la télé. C'est vrai.
Déjà, ouais.
est-ce que t'as des, est-ce que t'aurais des noms, des personnes, des formes différentes qui peuvent exister de gens qui font de la musique sur Twitch?
Bah, je sais pas, justement, récemment, et je trouvais ça bien, on a reçu Jacques, dans notre émission, et que donc tous les mardis.
Le musicien de musique électronique.
Voilà, exactement, qui a sorti un album tout récemment, et lui, bah, donc il compose, mais avec le chat, et littéralement, le chat, il y a des commandes qui peuvent gérer le mix qu'il est en train de faire, donc genre cette piste là plus haut, plus bas, et donc du coup c'était assez drôle parce qu'il dit que là je suis obligé de réinventer la démocratie, enfin de voir est-ce c'est que vraiment. C'est bien et un peu ce qu'on avait vu avec Twitch Play Pokémon où des fois donc c'était tout le chat qui devait compléter le jeu vidéo Pokémon, et donc du coup en disant les inputs gauche droite et tout ça, mais à un moment pour se débloquer des fois soit tu votais pour le mode anarchie où la commande, enfin c'était une commande aléatoire qui était choisie dans le chat, ou démocratie, c'était la commande qui est plus poussée par le chat qu'on faisait pour l'input. Et donc du coup c'est trop drôle de voir comment il conceptionne un peu toute sa musique et de voir aussi que le chat participe.
Ça c'est
cool quoi. Et c'est vrai que même quand Squeezie avec Mid, il propose de refaire tout le générique, toute la charte sonore de la chaîne, il y a le chat qui est là pour aider. Donc du coup Jacques se disait merde pour l'assassin comment on va faire parce qu'il y a peut-être étouffe ma touffe qui va avoir 3% de ma assassin parce qu'il m'a bidouillé un potard et tout comme ça, et donc c'est rigolo et puis c'est cool, ça peut permettre aussi aux gens de participer au processus et c'est cool.
T'as plein de co-compositeurs, co-producteurs et tout. Ouais,
ce qui est marrant,
c'est que du coup, tu sais, c'est un terrain d'expérimentation justement, notamment avec la proximité avec les viewers en fait. Sauf que d'un autre côté, sur Twitch, on est en l'an 1861 de la propriété intellectuelle, tu vois, avec les DMCA qui te strike tes VOD, etc. Je veux dire,
oui, DMCA, strike, etc. C'est-à-dire que quand tu passes des contenus qui appartiennent à un ayant droit, et bien on enlève parce que t'as pas le droit de l'utiliser, comme sur YouTube, etc.
C'était toi-même l'artiste.
Ah ouais.
Et là, ça peut poser problème.
Et là, c'est emmerdant, effectivement.
Je me souviens de Metallica qui devait faire un concert pour la BlizzCon, donc une convention liée à l'éditeur Blizzard. Qui ont fait un concert et Twitch a paniqué, je sais pas quoi, et a muté la piste de son et ils ont remplacé avec un espèce de truc folk en 8 bits horrible, et t'as Metallica qui est fait Metallica mais c'est ridicule quoi. Et donc il y a plein d'artistes qui ont la volonté d'un peu de whitelister certains créateurs et créatrices. Enfin, Mid a fait pour Hugo Decrypt, je pense pour Squeezie aussi.
Il a fait quoi avec Hugo Decrypt?
Ils les mettent en whitelist.
Il a whitelisté la chaîne de Hugo Decrypt, comme ça ils peuvent l'utiliser.
C'est-à-dire ils donnent le droit d'utilisation.
Exactement. Je pense que j'imagine Julien Granel a dû faire ça aussi avec Lena. Je pense qu'elle a servi aussi parce que grâce à ça, il est devenu top viral cet été. Mais il faut dire aussi qu'il y a des artistes. Enfin, par exemple, là, il y avait Big Flo qui était au The Event. Enfin, littéralement, il pouvait pas poser son quoi. Ce que pour expliquer, c'est que aussi on a cette problématique avec Laserdisc et c'était un peu les pires timings pour lancer une émission musicale sur Twitch parce que on était au début ce strike massif où tout le monde avait son DMCA d'un truc obscur de Beatles, d'un jeu vidéo obscur. Mais il faut dire que tu peux clearer les droits avec Universal France. Pas de souci, mais à un moment t'as peut-être Universal Brésil qui va dire hop, ça marche, et donc du coup ils vont claim la vidéo et tes droits. Donc sur YouTube c'était une démonétisation et une monétisation à leur profit, mais là sur Twitch on est sur
ça mute,
un strike et au bout de 3 strikes ta chaîne saute. Donc ça c'était le pire truc, donc c'était un peu frustrant pour Laserdisc parce qu'il y avait des artistes qui voulaient trop venir mais qui pouvaient pas quoi, et on a des majors, on sait cet artiste on le veut trop, elle veut trop, mais elle est sur cette major là et voilà. Donc apparemment il y avait des discussions avec la SACEM et des trucs comme ça, tout le monde faire ça. Enfin, je sais qu'il y avait Warner aussi qui essayait de voir parce qu'il trouvait l'importance de cette plateforme.
C'est un sujet qui est...
Et c'est compliqué.
Ouais, c'est un sujet qui est... notamment dans le podcast, par exemple, nous, ça fait 3000 ans qu'on attend, quoi. Parce qu'on disait, nous, on est prêt à payer une licence.
C'est ça, comme chez le coiffeur ou dans le bar. Ou
voilà,
je sais pas,
on paye X centaines d'euros par an, mais et du coup, la contrepartie, c'est qu'on a le droit au... Parce que à chaque fois, c'est pour du droit de citation. C'est-à-dire que t'es pas en train de dire, je vais faire une émission où je vais passer l'intégrale de Michael Jackson. C'est, tu dis, je parle à un moment donné de Michael Jackson, j'aimerais bien pouvoir passer 20 secondes du morceau sans me faire emmerder, tu vois. Et en fait, chez Twitch... Moi, je me rappelle qu'il y a quelqu'un de Twitch France qui m'a dit, écoute, fais ce que tu veux en live. Du moment que tu publies pas ta VOD, tu vis ta vie, tu vois. Et donc là, on a trouvé un moyen.
Oui, parce que la piste 6.
Spécifiant en fait sur Twitch, en gros, il y a pas de strike en direct. C'est-à-dire, tu passes de la musique, c'est bon.
C'est une légende urbaine pour l'instant. On l'a pas vu encore.
Alors le strike en direct, Apple.
Ah, okay.
Quand mais tu c'est pas couvres, que sur l'audio, c'est
voilà,
sûr. Okay.
Quand tu couvres une conférence Apple, que tu restreams les keynotes Apple.
Ah, si, le BFM, je crois, le Sardoche, Hugo Décrypte, qui avait regardé le débat Zemmour-Mélenchon.
Oui, ils se sont fait shooter.
En tout cas, en ce qui concerne la musique, en live, on n'a pas de soucis. Si on laisse à disposition derrière en replay la vidéo, que là, il y a des problèmes.
Et le plus pervers, c'est qu'il faut aussi rappeler que sur Twitch, les viewers ont la possibilité de faire leur contenu éditorialiste, à savoir
clipper, des clips. Ça, ouais, okay.
Et donc du coup, si t'es pas attentif, peut-être ta VOD, tu l'as jarté, mais tu peux avoir des clips qui traînent et tu peux faire striker.
Pour le clip,
quoi. Enfin, moi aussi, je me suis pris un DMCA pour ça, mais c'était de la musique qui était dans un jeu vidéo. C'est pour ça que maintenant, quand tu es développeur de jeux vidéo, tu dois un mode streamer. Ouais. Et c'est pour ça que il y a des trucs un peu ridicules, c'est dans Life is Strange 2, où t'as littéralement une scène où les protagonistes dansent sur un truc, et au mode streamer, c'est... Donc le vide, il y a rien.
Donc si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y a un jeu vidéo dans lequel il y a des musiques type GTA dans les radios, etc. On active une option qui enlève les musiques du jeu de façon à ce que si on le stream, on n'a pas de problème.
C'est ça, le mode streamer.
Incroyable. Ouais,
notamment justement pour les jeux comme GTA qui tournent avec plusieurs radios thématiques avec des morceaux et alors c'est un merdier pas possible parce que tous les titres ils ont pas les droits pour la même durée, etc. C'est un bordel.
Alors après il y a un truc t'allais dire
non, je dis c'est ça le problème et effectivement parce qu'on aimerait faire des choses et comme avec Laserdisc, mais voilà, on a cette
moi je sais que personnellement je tourne autour depuis ultra longtemps l'idée justement de sampler, parce que moi j'aime bien faire du sample avec la MPC et de mettre un setup avec la machine et puis tu fais tourner le sample et puis tu le découpes, etc. Et je me dis ça sert à quoi en fait, parce que je vais me faire déchirer donc tu vois ça peut même te bloquer toi dans certains trucs que tu aimerais faire. Alors que paradoxalement, on dit que Twitch, c'est un nouveau territoire à explorer pour les musiciens, machin, etc. Tu vois, donc on est un petit peu dans un entre-deux un peu chelou. Alors effectivement, nous, on a la technique de la piste 6, la célèbre, qui permet en fait, quand tu fais ton live, d'isoler la piste musicale du reste du stream.
Pour la virer ensuite sur replay.
Et de n'envoyer que le stream sans la piste musicale dans la VOD. Donc, si tu fais un truc qui est essentiellement tourné autour de la musique, du coup, effectivement, t'as un a cappella.
C'est ça. T'as des très beaux clips du The Event de cette année où il y a des gens qui dansent et hurlent sur rien.
C'est incroyable.
C'est très drôle.
Donc, mais ça, c'est un pis-aller, quoi. Et en attendant mieux, alors peut-être que le mieux pour eux, ça sera de striker en direct. Je sais pas.
En vrai, je sais pas.
On pourrait juste pour revenir à Twitch, les musiciens en direct. Moi, j'avais quelques exemples. Je sais qu'on l'avait reçu d'ailleurs dans cette émission Toxic Avenger, par exemple.
Bien sûr, ouais.
Régulièrement, fait des lives où il fait de la musique en direct.
Il fait de la musique pour le jeu vidéo aussi. Donc,
oui, tout à fait. C'est vrai que ça a du sens. Ouais. Mais même après des youtubeurs historiques qu'on a reçus aussi ici, PV Nova, Florent Garcia, etc., stream régulièrement. Alors pas que pour faire de la musique, parfois pour en parler, etc. Mais
il y a Mister MV aussi même, qui fait
absolument qu'on a reçu aussi. On a reçu pas mal de monde.
Mine de rien.
Et il fait beaucoup de musique de jeux vidéo, notamment.
Crazy Frog.
On
le rappelle. Panthéon. Crazy Racer Frog, ouais, je sais.
C'est vrai qu'il a fait un banger, j'avais
un
oublié.
Banger, oui.
Mais il y a donc tous ces musiciens. Mais aussi du contenu qui parle de musique, justement. Et typiquement, l'émission que tu animes avec Orti, Laserdisc, s'inscrit là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette émission et peut-être après en citer d'autres aussi dans cet esprit-là sur Twitch, il en existe. Vous l'avez lancé début 2021, je crois, avec Arte. Un truc comme ça.
Je crois que c'est perdu parce qu'on est rentrée 2021. On est deuxième saison, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait que un an. Je sais pas. Ouais, ça doit être
l'année dernière, quoi.
C'est quoi le principe de cette émission?
Après le truc, ça vient d'une idée aussi que moi je travaille souvent avec Arte Concert. Donc Arte Concert qui capte des lives ou alors qui crée des concepts autour. Je sais qu'ils ont Passenger, c'est un peu lié à l'aventure spatiale ou le voyage, ou truc comme ça. Après ils ont Dans le Club où c'est des formats de musique urbaine comme disent les blancs des victoires de la musique. Non voilà, je travaille
groove.
Avec musique groove. Et donc du coup, eux, ils diffusent sur Facebook, sur leur plateforme Arte, et après tu peux retrouver sur YouTube. Mais moi, je disais, mais pourquoi vous êtes pas sur Twitch et tout ça? Donc j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je sais pas s'il y a une petite graine, et du coup, Arte Concert a fait un appel au projet. Et donc du coup, il y a la blogothèque qui est venue me parler. Je sais pas pourquoi. Parce que j'étais sur Twitch.
C'est la blogothèque, super équipe de production
des
vidéo,
monstres.
Qui avait fait un clip de Justin Timberlake.
Exactement.
Qui avait fait plein de trucs.
Ils avaient fait, je pense qu'ils avaient pas mal explosé avec ce qu'ils avaient fait à Arcade Fire, avec Arcade Fire à l'Olympia, mais ils ont fait Justin Bieber aussi. Enfin, ils ont fait des trucs avec Phoenix.
Tu t'appelles Justin, c'est bon.
Ouais, c'est pour toi. Ouais. Non, ils avaient développé ça avec ce qu'ils appelaient les concerts emportés à l'époque. C'était des petits lives un peu partout et ouais, et puis à l'international ça a explosé. Et puis ouais, pour l'anecdote, c'était une des premières fois où je suis monté sur Paris pour faire des photos. C'était où j'ai demandé à Vincent Moon à l'époque, qui était dans la blogothèque, il dit, je peux venir faire des photos? Et il m'a dit oui. Et du coup, et après, 11 ans plus tard, il y a la blogothèque qui vient me voir. J'étais genre, oh, let's go. Le storytelling, la boucle est bouclée. Et donc, du coup, ils sont venus me voir et on pensait à une émission musicale.
Ouais.
Et du coup, bah, quelque chose, ouais, qui me fait kiffer depuis longtemps, un truc comme ça. Et puis après, on s'est posé la question de, bah, comment faire, en sachant que, je pense que c'est important aussi de se la jouer un peu humble. Et Arte, ils ont bien compris ça aussi. Et que, il fallait un peu aussi faire le pont avec ce qui était déjà à Twitch, donc c'est vrai qu'on s'est mis un peu cette volonté de ramener
des streamers
ou des streameuses pour parler musique et faire des ponts sur un côté un peu horizontal à la podcast, tout le monde au même niveau, on échange et tout ça, quoi.
Donc l'idée, c'est de se faire rencontrer la culture Twitch, entre guillemets, et des artistes, et
c'est
de mêler tout ça.
Exactement, okay. Et parler un peu de la création, donc après on fait du tour musical, on essaie de s'ouvrir un peu à la pop culture et vraiment faire des grosses... discussion. Enfin, là, la dernière fois, on s'est penché sur l'intelligence artificielle. Et,
ah ouais.
Et de voir, bah, par rapport à la musique, justement, ce qui était intéressant, et par rapport au grand débat qu'il y a eu cet été, genre, est-ce que Midjourney ou DALL-E, qui est une intelligence artificielle qui te permet, avec, à la base de mots-clés, de générer une image. Mm-hmm. Et de, tout le monde
ça
a
va
dit,
mettre des graphistes au chômage.
Genre, oh mon dieu, c'est la fin du monde et tout. Et je voulais un peu dire, ouais, peut-être pas, quoi. Quand je dis, je sais pas, l'invention du calque. Je pense que les gens se sont dit, oh mon dieu, un calque, c'est fini. Je ne suis pas scribe, je vais pas, voilà, ça va être trop simple.
La photocopieuse.
C'est fini. Je pense pas, tu vois, c'est un nouvel outil et une béquille pour tous les trucs casse-couilles, bah, ouais. Tu vas aller directement. Et voilà, on a vu ça avec la musique aussi. Donc, c'était c'est Sony.
Ava?
J'allais dire SNL, pas du tout. CLC ou je sais plus quoi. CLS, je crois.
Ouais.
Enfin, c'était un truc dans les années 90. Je crois que c'est Sony qui a développé un laboratoire pour travailler sur l'intelligence artificielle. Donc, du coup, ils aspirent plein de trucs. Et je sais que récemment, avec l'intelligence artificielle, ils ont refait une chanson qui s'appelle Daddy's Car, une chanson des Beatles. Ouais. Comme si c'était les Beatles, c'était assez intéressant. Mais tu vois un peu les tropes du truc, mais je pense pas que ça va remplacer les gens. Et
non, par contre, j'avais fait une vidéo aussi sur ce sujet d'ailleurs, sur l'intelligence artificielle dans la musique. Autant, la machine n'est pas complètement autonome en réalité. Autant par contre, pour générer facilement de la musique, d'ambiance, d'accompagnement,
bah
etc.,
oui,
ce qui fait quand même bouffer aussi quelques musiciens, très vite, je pense qu'on pourra être en capacité de ne plus passer par un humain, ce qui arrangera beaucoup d'entreprises, etc., qui chercheront juste...
C'est la même, chose avec les mid-journées, etc., pour tout ce qui est stock photo, en fait.
Oui, mais sauf que moi, je faisais la réflexion, c'est que déjà, il y a des biais dans une intelligence artificielle, et donc...
Oui, ça
comme on a vu, enfin, sur les IA, déjà, c'est des hommes blancs, donc, on a vu tous les problèmes qu'il y a avec les personnes racisées ou quoi que ce soit, et qui vont pas reconnaître la même chose, et tu vois, c'est comme mid-journée, où moi, je compare ça à l'époque du 5D, où dès que le 5D est apparu, donc un appareil photo qui permettait de faire une image un peu quali, un peu cinéma.
Pour pas trop cher.
Ouais. Tout le monde a fait, et tu captais, au bout de 2 mois, ah, ça c'est du 5D, 5D c'est toujours la même image. Moi, mid-journée, tu vois, mid-journée, en instant, je te dis que c'est mid-journée.
Oui, mais ça c'est problématique dans un cadre artistique. Lorsque c'est uniquement de la bande sonore que tu fous sur ton film d'entreprise ou je ne sais quoi, ce qui fait bouffer encore une fois des musiciens, là tu seras peut-être un peu moins regardant sur l'originalité du truc.
Bah, la question c'est, est-ce qu'ils auraient dû bouffer aussi fort que ça, les musiciens qui faisaient ça?
Je sais pas, je crois pas que c'est là où tu te fais le plus de fric non plus.
Non, mais tu vois, la stock photo c'était une manne hein, aussi. Ouais. Et les Getty Images, etc., ils sont en train de baliser parce que oui, clairement, eux, ils comprennent que leur gagne-pain va sauter,
c'est plus
Getty
Images qui prend que le photographe qui l'a fait
oui,
derrière,
oui,
je pense.
Mais tu vois,
le Getty Images, il se servait de la enfin de la précarité de certains photographes aussi, tu vois. Enfin, je pense les gens qui font les bandes son de youtubeuses make-up qu'on a entendu 1500 fois, enfin ils font que du flux à un moment et je pense que c'est de l'exploitation ou les trucs de Fiverr, tu vois.
Oui,
tu
c'est pas il y a pas de démarche
artistique.
Tu peux
dire ah super cette créativité là. Ouais. Je pense qu'il y a un problème systémique autour qu'il faudrait voir, des trucs comme ça, mais tu vois, je pense que ce truc d'ambiant, au bout d'un moment, vu que t'auras les mêmes biais, l'intelligence artificielle, bah, tu vas avoir ça. Je dis, bon, moi, je veux pas ces trucs-là et je vais valoriser l'œuvre d'un ou d'une artiste.
Ça, ça existera toujours, c'est certain. Mais dans l'aspect industriel des choses, je pense que, même si parfois tu es précaire, etc., ça va certainement éliminer quand même quelques postes. Je pense.
Oui, mais c'est pas plus mal.
Je sais pas, c'est la question. Bah, toi, on a parlé de FNMeka, je sais pas si tu l'as suivi.
Ouais.
FNMeka, qui est un rappeur, qui a été créé par une intelligence artificielle, qui a été signé chez Atlantique, je crois.
Ok. C'est le rappeur, c'est le virtuel afro-américain, c'est ça? Et qui, on
ressent quelque chose comme ça. Ouais. Il a fait un featuring avec Gunna, un truc comme ça. Et en 3 mois, c'était fini parce que, il y a des associations, qu'ils ont dit là il y a des biais racistes, enfin c'est comme quoi il y a le N-word qui est droppé, des trucs comme ça, pourquoi, des trucs comme ça, et c'était un fiasco total. Et au final on s'est rendu compte que la voix, parce que la voix tu peux pas générer artificiellement, la voix c'était un artiste qui s'est fait niquer la gueule parce qu'on l'a pas payé ça, des trucs comme ça, donc tu vois un peu les bouffes. Donc effectivement ouais, non après tu vois typiquement ce genre de discussion, ce qui était intéressant, c'est de on se pose ce genre de questions dans Laserdisc et de voir la création en général, quoi. Et surtout que la musique maintenant ça s'arrête pas à la musique, quoi. Enfin quand tu vois les projets, t'as tes clips, ta charte graphique, ton persona,
360
artistes total, mais tu vois, donc ça ramène pas mal de choses. Donc voilà, on essaye d'aborder ça, et effectivement il y a le côté un peu taratatouille où il y a forcément un live à la fin, mais moi j'avais des... Enfin, tu vois, moi, nulle part ailleurs, ça m'a traumatisé de voir qu'il y avait Slipknot, Deftones, enfin la programmation, je sais plus c'était quoi le truc tous les dimanches sur Canal+. Enfin, la curation était incroyable et ça, j'ai envie de ramener un peu ça, tu vois. Okay. Ce qu'on peut voir aussi sur les late shows, où t'as des, tu vois des turnstiles ou des trucs comme ça que tu verras jamais en France, quoi. Donc ça, c'est cette volonté-là, cette volonté, mais après la possibilité de le faire, comme on a dit avec Twitch. C'est encore un peu compliqué. Okay. Donc ça, j'ai encore un peu cette frustration, mais en tout cas, on s'amuse.
Si c'est de la reprise live, pas trop de problème en théorie, non?
Moi, je sais qu'avec justement 300 vues, on avait fait une reprise avec Adèle Castillon, donc une reprise où il y avait sur XXXTentacion, là.
Ouais.
Oh, rideau, quoi. Ah, ouais, c'est fini. Donc même les covers, il y a des soucis aussi. Donc c'est un peu
chiant. La cover était trop proche, peut-être.
C'est ça, je pense. Ouais.
Il faut réinterpréter.
Il y a un public pour des émissions purement musicales sur Twitch, tu penses?
C'est la question de voir à qui on s'adresse. Donc après, forcément.
En fait, moi je vois quand MV il fait un live musique, ça marche quand même moins bien
Et ils sont là parce que c'est MV aussi souvent.
Oui. Non, mais tu pourrais te dire un type qui a son aura, sa communauté, etc.
Il pourrait être le meilleur de France.
Oui, il pourrait un des meilleurs aussi.
Ça, c'est vrai.
Mais je dis pas ça parce qu'on travaille ensemble. Mais en fait, c'est vrai que tu te dis bon, ok, quand il joue à Isaac, il a 12 ou 15 000 personnes sur son live. C'est des gens qui viennent le voir lui, donc normalement, théoriquement, quel que soit le truc qu'il fait, les gens vont venir.
Ouais.
Il se trouve qu'effectivement, dès qu'il commence à tâter du Cubase...
Même si je fais le distinguo quand même entre... moi, par exemple, j'ai beau être musicien, composer à la maison, etc. Voir pendant 4 heures un mec le faire, ça me passionne pas.
Ouais.
Moi, je préfère à la limite un tuto condensé, si c'est pour choper des tips, des choses comme ça, non, ça c'est très cool.
Le voir en mode vraiment filmé, distant, etc., effectivement, c'est pas super intéressant. Par contre, si le gars, en fait, crée en direct, se pose des questions, discute avec les gens,
C'est un peu chiant en fait de composer. Hein.
Ouais, mais les gens, alors paradoxalement, sur Twitch, les gens ils aiment bien le côté coulisses.
Ça par contre c'est vrai. Ouais.
Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement quand on parlait de c'est pas de la télé, c'est parce que en télévision il y a pas de temps mort, il y a pas de tout est cadré, tout est streamliné. Alors que l'intérêt pour les gens quand ils vont voir quelqu'un sur Twitch, c'est de le voir justement peut-être un peu galérer, se poser des questions,
peut-être les bloopers directement dans le programme.
Ouais,
que
c'est
tu
ça, c'est de se dire ah tiens attends là il y a vraiment tu t'assistes au processus créatif, le mec discute etc. Il met un effet, il en est pas content, il discute avec les gens. Ah ouais attends je vais peut-être le tourner comme ça. Ça fait partie du truc en fait.
C'est vrai quand tu ne connais pas l'univers, il y a un côté assez fascinant j'imagine que de découvrir la réalité de la composition musicale, par exemple.
Carrément.
Ça peut être un peu de l'ASMR pour des gens aussi.
Ouais,
il y a des bruits, c'est tard dans la nuit, j'imagine, qui avaient les plus posés, trucs comme ça.
Il y a des gens qui s'endorment avec ça, c'est, je trouve qu'il y a, enfin, c'est le côté qui m'intéresse de Twitch, c'est justement, les gens sont là pour ce qui se passe quand la caméra est allumée, mais aussi pour ce qui se passe quand la caméra devrait pas être allumée, et souvent c'est ça qu'ils vont retenir.
Ouais.
Et il y a plein de lives en fait qui sont devenus légendaires parce que les mecs en fait ils avaient pas coupé quand ils pensaient qu'ils avaient coupé, et ils font n'importe quoi derrière, et les gens en rigolent, et puis ça crée des éléments de culture qui vont être après partagés. Ah ouais, t'aurais dû être là ce jour-là, etc. Et ça fait partie du lore en fait de la plateforme. Donc oui, effectivement, en pure consommation, j'arrive au pif sur un streamer que je ne connais pas, et je vois que pendant 4 heures il va bidouiller Cubase, effectivement tu dis ouais, Osef un peu, tu vois. Par contre, si c'est quelqu'un avec lequel t'as une affinité, parce que tu le suivais par ailleurs, etc., c'est toujours cool, moi je pense, de se poser.
Mais à ce moment-là, on en revient à l'idée que par exemple, je t'avoue que je me pose cette question parce que nous on réfléchit par exemple à faire des choses sur Twitch autour de la musique. J'aimerais bien, par exemple, que tu me dises, est-ce que vous êtes satisfait des audiences que vous faites avec Laserdisc?
Bah après, moi, je suis la pire personne, parce que moi, j'ai décidé de, que ce soit en perso ou pro, de jamais regarder les statistiques. Okay. Donc ça, je pourrais pas le dire. Après, je sais que on est souvent en carrousel, donc le carrousel, c'est d'être mis en avant sur la
homepage.
Donc ça, fatalement, je pense que tu multiplies par 3, et je sais pas si c'est le meilleur indicateur sur le truc, sur ce que tu produis. Donc moi, je sais pas. Moi je suis satisfait des retours directs que je vois dans le chat, des trucs comme ça, je me pose pas la question, et le retour, bah les gens qui me payent et qui construisent l'émission avec moi, donc ouais, ça je sais pas. Après moi je dis enfin il faut regarder en arrière, et Twitch c'est juste le pendant gaming de Justin TV, enfin limite il y a 6 ans c'était interdit de faire autre chose que du gaming, tu vois. Donc après il y a eu la cuisine, tu pouvais te faire ban parce que tu fais de la cuisine, moi la cuisine est venue après comme ça. Donc pour moi, j'ai un peu l'excitation aussi de ce que j'avais il y a 7-8 ans pour YouTube. Ouais. C'est vrai que pour moi, il y a tout à faire. Donc là, je peux pas me dire « Ah là, je vais tout péter, quoi. » Je pense qu'aussi, faut ramener des gens. Twitch, ça arrive un peu dans la culture populaire. Enfin, on voit ce qui se passe. Enfin, tu vois, t'as le GP Explorer qui t'a dit que t'avais vu Squeezie dans une Formule 4.
C'est quoi le GP Explorer?
Le GP Explorer, ça va entre en octobre. C'est Squeezie, à l'initiative de Squeezie, qui ramène une vingtaine de créateurs et créatrices d'Internet pour s'affronter en circuit sur une Formule 4, tu vois.
Ok.
Déjà le truc, je sais pas comment tu me payes déjà, mais non, mais tu vois, il y a ça qui se passe, tu vois, je peux pas l'anticiper, donc ça va forcément ramener d'autres gens, enfin
le sport mécanique,
enfin ouais, bah tu vois, sur le confinement aussi, voilà, les gens de Formule 1, enfin Charles Leclerc, tout ça, qui sont venus sur Twitch, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se rassembler.
Tu penses que ça se diversifie, donc le
le frérot qui ramène d'autres gens aussi, donc
mais c'est une vraie volonté de Twitch d'ouvrir justement leur plateforme à des gens qui sont pas que des gamers. Pour que à terme effectivement le jeu ça soit une composante,
c'est ça,
mais que ça soit pas l'essentiel de la plateforme. C'est pour ça que
déjà être le cas.
Ouais, c'est pour ça que quand tu fais une émission musicale t'es mis en carrousel, parce qu'en fait tu privilégies vachement,
peut-être aussi parce que t'es arrêté, que t'as les bons contacts, ouais, pour le carrousel, ça. J'imagine ça aide aussi.
Non mais il y a ça bien sûr, mais je veux dire ils mettront toujours en avant du talk, de la discussion. C'est pour ça qu'on te dit que sur Twitch la catégorie la plus populaire c'est Just Chatting, parce que t'auras plus d'exposition si tu fais du Just Chatting que si tu mets en catégorie de ton stream le nom d'un jeu vidéo, parce que voilà, ça il y en a,
c'est déjà saturé.
Moi c'est ça qui est paradoxal, mais moi je fais beaucoup moins d'audience quand je fais un jeu vidéo où je peux faire un puzzle, j'ai 10 fois plus d'audience, quoi. C'est fou, voilà. Alors c'est marrant parce que c'est Twitch, genre quand c'est les gamers, League of Legends, quoi. Mais ouais, effectivement t'es plus mis en avant, et puis maintenant t'as des nouveaux outils où, je sais plus, t'as vu, tu peux faire booster ta chaîne.
Ouais, j'ai pas compris à quoi ça sert, mais voilà.
Je peux te booster sur ta chaîne maintenant. Donc je sais pas, ouais, si ça pète et tout, mais de toute façon je vois encore plus de corrélation entre le monde de la musique et tout comme ça, donc je pense que les gens peuvent être curieux. Je vois les retours en chat où on a des gens ont découvert de la musique grâce à nous. Que là, ce qu'on a fait aussi avec Hall, qui a proposé un concert virtuel participatif avec les gens, tu vois, donc on peut commencer à explorer de nouvelles narrations, de nouveaux formats. Là, tu vois, on a fait en itinérance le Hellfest, donc se greffer avec des trucs un peu IRL de la vraie vie et tout.
Justement, je pense que ce qu'il faut pas oublier, que Au fur et à mesure que les usages évoluent, il y a aussi la technologie qui s'améliore. Et là, on fait des trucs aujourd'hui en 2022 qui étaient impensables il y a juste 5 ans en arrière. Oui, en
tu veux dire que sur Twitch, c'est plus que des mecs qui sont dans leur chambre, mais on peut faire du véritable quasi reportage.
En Maximini, c'est toi maintenant. Quoi.
Typiquement, pour le dernier Hellfest, c'était aussi avec Arte Concert, si je dis pas de bêtises, tu animais, enfin, il y a eu plusieurs streamers aussi d'ailleurs qui animaient plusieurs
trucs. Ah, ça c'est différent.
Ah, c'était pas la même chose. Ouais. Ce qu'ils ont fait dans leur côté, le Hellfest, c'est ça.
C'est ça, il y a la Hellfest TV, à laquelle j'ai participé aussi. C'était un truc un peu plus premier degré, comme on peut le voir sur Twitch, où on recevait les invités.
Et c'était sur Twitch aussi.
C'était sur Twitch aussi, sur leur Hellfest TV. Okay. Mais moi, j'ai fait un programme Laserdisc un petit peu hors série, ou en itinérance, avec le petit backpack. Enfin, c'est pas moi qui avais le backpack, mais du coup, on pouvait.
Te balader dans les travées du festival.
Et ça, m'a toujours un peu excité de dire, vas-y, je suis un peu le festival zéro, et faire vivre un peu certaines choses, faire découvrir un peu. Les gens qui ont pas la chance, surtout que le Hellfest, enfin, le truc, ça coûte presque 300 balles. Enfin, c'est une chance inouïe, il faut raffle limite ta place et tout. Donc, pouvoir aussi ramener un peu ce voyage-là, ramener des coulisses aussi aux gens qui ont pas l'occasion de le faire. Et c'était très cool, même si c'est 46 degrés.
Et ça, en fait, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va miniaturiser les moyens de captation, les caméras, les machins,
ça va se développer, c'est certain.
Les batteries et tout, c'est sûr que...
Mais question. À ton avis, pourquoi les mecs du Hellfest, ils font une Hellfest TV sur Twitch, où ils font appel à des streamers, et puis après ils accueillent des artistes, etc. Ils parlent du festival, certes. Qu'est-ce qu'ils espèrent y gagner, à ton avis?
Peut-être se rapprocher d'un certain public aussi.
Ouais. C'est une contre-culture, un peu, tu vois.
Ouais.
Je pense que quand tu veux pas tomber justement dans le cirque médiatique habituel avec les groupes de presse, les chaînes de télé, machin, etc., te dire en fait, je fais ma propre chaîne, je la diffuse sur la plateforme, je comprends les codes d'internet, donc je vais demander à des gens qui sont déjà en place sur cette plateforme de venir aussi pour justement essayer d'avoir plus de visibilité, etc. En fait, c'est une façon pour eux, je pense, de prendre aussi le pouvoir et.
Mais ça s'intègre donc dans une optique de communication.
Bien sûr.
Parce que tu vois, dans les invités, on avait bien sûr des artistes, mais aussi des techos, des gens qui font des photos, des gens qui font de la prévention. Enfin, c'est aussi et puis aussi peut-être de la fierté aussi de dire on a ces concerts là plutôt que d'être à 3h du matin sur W9 ou ces stars, tu vois. Totalement, c'est la com et un peu de fierté, mais je trouve ça cool de pouvoir permettre ça aussi aux gens, quoi.
Avec Arte, par exemple, quand j'imagine qu'il y avait une forme de cahier des charges, quand même, d'autant plus que c'est un service public, Arte. Eux, par exemple, quelle est leur volonté au-delà de faire parler d'Arte, de produire du contenu sur Twitch, mais est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que ça doit être orienté votre approche de la musique? Est-ce que c'est...
Alors, on a une chance incroyable, c'est que...
Faites ce que vous voulez.
Ouais. Vraiment, ça c'est fort et je pense qu'au niveau des valeurs, je pense qu'on partage pas mal de choses aussi quand même. Après, faut expliquer aussi qu'il n'y a pas que Laserdisc, il y avait Jour de Play aussi qui s'est lancé, qui est dans
autour de jeux
vidéo, tout comme ça, avec des spin-offs, je crois, au bout de la nuit, ou je sais plus comment ça s'appelle, où tous les mercredis ils interviewent un créateur ou créatrice. Après, il y avait la FAQ aussi. Donc là, il y a j'ai oublié une nouvelle création. Bref. Il y a tout un écosystème qui se crée et je pense qu'ils là où ils sont intelligents, et on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est qu'ils la jouent un peu humble, et je pense qu'ils ont fait aussi avec YouTube. J'ai l'impression qu'ils ont pas essayé d'en faire des caisses pour draguer les jeunes sur YouTube sur cette chose, mais en même temps tu vois maintenant Kameto qui va te regarder la conception du riz sur Twitch, tu vois. Il m'a dit voilà ce qu'on a, ce qu'on est, trucs comme ça, et ça prend petit à petit. Et enfin, quand je vois les trucs de ce qu'avait tenté BFM ou je sais pas quoi, de faire directement, genre, on va parler de l'attaque des Titans et les jeunes ou je sais pas quoi, avec des gens random que t'en vois au Turbin.
Faut pas faire ça.
Ils ont vu Samuel Etienne, mais sauf qu'ils ont oublié que Samuel Etienne, il a été un peu coopté par Étoile, qui était déjà en place.
Il est arrivé en son nom, en plus aussi. C'est pas la même chose, quand même, quand c'est une structure derrière.
Donc c'est ça. Donc moi, Arte, je pense qu'il se la joue un peu humble. Donc justement, on a voir des gens qui comprennent. Et après, nous, on a une totale liberté. Je crois que j'ai jamais eu trop de soucis. On a eu des petits soucis sur le curseur, sur certains de les prises de parole. Quand je m'étais pas moqué, mais j'avais parodié l'interview sandwich de Combini. Ça avait juste fait un peu jaser, tout ça. Mais sinon, on peut vraiment tout faire, quoi. Bon, on est peut-être un peu de gauche, quoi. c'est ça le biais, truc comme ça, je peux pas dire.
Arte ne devrait pas trop vous en vouloir.
Voilà, donc ils nous disent rien, ça a l'air de leur plaire, je sais pas. Mais voilà. Mais en vrai, dans une liberté incroyable. Quoi. Et puis même la programmation, on fait vraiment ça avec la Blogothèque, on valide tout, on se connaît tous. Ouais,
j'avais noté, vous avez reçu parmi les artistes, il y a eu Suzanne, Giorgio, Dime, pour les streamers Ultia, Ponce, plein de, enfin, des noms importants.
Ouais, Antoine, ouais. Daniel, à ce moment-là. Non, non, et puis surtout, plein de courants musicaux aussi. Ouais. Quoi. Ça, c'est cool. Même si, bon, maintenant, on a des restrictions de place, tout ça, c'est sûr qu'on va pas pouvoir avoir... Arcade Fire et 11 personnes, tu vois. Bon, j'ai pas trop envie d'avoir Arcade Fire en ce moment, mais c'est pour dire que vraiment, ouais, Win Butler, je t'emmerde. Vraiment. Le groupe de ma vie, tu me fais ça. Bref, mais ouais, non, mais j'aimerais bien, ouais, je te dis, moi, c'est vraiment le côté nul par ailleurs où ça me fascinait de voir autant d'artistes. Alors qu'il y avait Alexandre Debanne, ou je sais plus, avant, ou Devoise, non.
Devoise, ouais.
Ouais, c'était Devoise avant. Je sais pas, j'aimais bien ce délire-là, quoi.
Enfin, nul par ailleurs, c'était une grosse machine média, c'est-à-dire que t'étais obligé de faire ta promo là-bas.
Mais moi, c'était le live musical. Enfin, je dis où tu vois Slipknot en France maintenant.
Ouais.
Enfin, tu vois pas Slipknot à TPMP, quoi. Enfin, sur ces audiences-là ou quoi
que
ça.
Oui, ouais, ouais. Mais peut-être que si TPMP décidait d'être le rendez-vous incontournable pour un artiste en promo, il les aurait.
Il y a déjà un peu. Après, c'est souvent du Kinevé ou. Enfin, il y a un choix,
ouais.
Quoi.
Oui,
musical,
oui.
Quoi.
Ouais.
Ça va être clic-clic, pan-pan-pan, et voilà, quoi. Ouais, non, et Amir. Ce qui est, je respecte Amir, mais c'est pas forcément dans Lazerdisc, quoi. Donc, bref, on est là. Voilà,
mais gros respect. Reste là-bas, mais
bon chance pour ton album, là. Ta réédition, ta troisième réédition, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, ouais, l'ambition, c'est ça. Tout ce que j'ai fait un peu dans ma vie, c'est de ce qui me plaît, quoi. Ce qui m'a mis dans une grande précarité. Sauf cette année où je paye 221 euros d'impôts. Et ça, j'en suis très fier. Et ça, c'est grâce à vous, la commu. Mais ouais, non, j'essaie de vraiment de faire ce qui me fait kiffer. C'est pour ça que, tu vois, même, je suis allé voir Horty parce que je la kiffais de ouf. Bon, après, elle a explosé.
Qui est donc la co-animatrice.
Qui est la co-animatrice, ouais, et qui a explosé entre temps. Donc, c'est vrai que maintenant aussi, on a cette chance-là d'avoir cette exposition et sa communauté qui est très cool aussi. Et c'était pas gagné d'avance. Mais ouais, non, je suis très satisfait, voilà.
Il y a d'autres choses en mode plus talk vraiment sur la musique sur Twitch. Alors je sais que j'ai vu récemment, ils se sont mis d'ailleurs, ils se sont lancés une espèce de marathon rap plume. Ouais. S'est mis à faire du Twitch à fond. Est-ce qu'il y a t'as d'autres exemples?
Merde, je sais plus qui. Je sais qu'il y a Gigipop qu'on c'est voit quoi, sur Gigipop Instagram. Gigipop qui est un créateur d'internet, musicien aussi, qui avait été contacté par Pias, je crois, Pias aussi qui a lancé son émission.
Ok, je vois pas qui sont voilà. Ça, pardon.
Pias, c'est un label.
Pias, c'est un label.
Ah, ouais. C'est un label, ouais. Ok.
Et du coup, je crois qu'ils ont lancé.
D'ailleurs.
Ouais, de ouf.
Ok.
Je crois qu'ils sont lancés là-dedans. Je sais pas s'ils ont continué. Je sais qu'à l'international, j'ai l'impression que Rolling Stone, ça a bien pété aussi.
Ok. Bouscapé, ils font pas des trucs sur Twitch? Je sais pas.
Je crois pas
non plus, hein.
Plutôt TikTok ou ce genre de truc.
Ouais, ils font plein de trucs, c'est sûr, mais ouais. Sur Twitch, je suis pas
sûr. Sur Twitch, j'avais vu, mais juste moi dans la. J'ai souvent vu Chrono et Squeezie dans une espèce de petit étude.
Sur Twitch?
Ouais. Moi, je pourrais pas dire, je suis nul. Désolé.
Ok.
Mais non, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu. Après, il y a des prises de parole en live de streamers en. Mais après des grosses émissions construites autour de ça.
Après on peut lui faire un coucou parce qu'en plus je sais que t'as paru aussi. Il y a quand même Flonflon.
C'est pas
un gros média.
Oui c'est ça.
C'est pas un gros média, mais qui fait une matinale musicale tous les jours.
Exactement. Qui se propose de faire des playlists en collaboration avec la communauté, qui aussi fait du React sur les To Be Free en ce moment, mais aussi sur la Starac.
C'est là où je le suis plus personnellement.
Voilà. Et la Starac effectivement, ouais. Flonflon, la Flonflonette, qui fait du bon taf là-dessus quoi.
T'as d'autres gens comme ça dans cet univers un peu.
Alors, en solo ou en émission?
Tout ce que tu veux. Tout ce qui est.
Bah après, moi, en termes de musique, moi, j'ai Sunfire TV.
Ok.
Qui est une batteuse qui me fait trop rire.
Ok.
Voilà.
Française?
Non. Je pourrais pas dire, je crois, peut-être elle est Amérique. Ou peut-être australienne, je crois.
Ok.
Et qui est une batteuse de ouf et qui imite très bien Toad. Et elle est trop forte. Elle est trop, trop forte. Et je la suis aussi, sur TikTok aussi. Parce que si c'est la force de TikTok, maintenant ça devient un bras droit de tout Twitch, ouais, ce TikTok. Ouais.
Et une porte d'entrée.
C'est ouf en ce moment ce qui se passe. Et Sunfire TV, ouais, j'adore.
Est-ce que pour résumer un peu la discussion, avant de passer à la deuxième partie, parler un peu de photos, on pourrait dire que Twitch, historiquement lié aux jeux vidéo, il y a tout à construire encore pour diversifier le contenu. Il y a des choses qui se font autour de la musique.
C'est en cours.
C'est plus des gens... quand même qui ont
mais il pourrait y avoir plus sur la musique. Bah, là, ça n'est d'une frustration.
Y a pas
tout le monde veut y aller.
Il n'y a pas grand chose, en vrai.
Tout le monde veut y aller, mais c'est effectivement ce qu'on se soucie, DMC, quoi. On attend beaucoup, quoi. Les droits, quoi.
Les droits.
Et pour ce qui est des musiciens, entre guillemets, sur Twitch, plus qu'un Eldorado par, vu comme ça par les artistes de manière générale, c'est plus des gens qui auraient cette culture stream déjà, ouais. Et qui développent une identité à la fois de musicien et de streamer, qui leur permet parfois derrière de faire des concerts, de faire des albums, etc. Mais où quand même, c'est presque des streamers à part entière, plus que des musiciens juste qui utilisent une plateforme, quoi.
Bah, non, après, je sais pas. Si, ouais. Moi, ça me semble bien ce que tu dis. Après, moi, je sais pas si ça fit avec ma consommation, tu vois, ouais. De Twitch, donc je pense pas être légitime pour voir ça, ouais. Mais je pense que, non, tu peux être très bien
Zico. C'est une vision, hein.
Mais tu vois, enfin, ce que je vois, je pense, PV, qui avait déjà fait sur YouTube, ouais. Avec l'Internet Orchestra, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette vibe qui se crée autour de ça, où, bah, il y avait besoin de quelqu'un qui fasse ça, et je pense qu'il peut y avoir des réunions. Je pense, faut pas être Michou, pour percer, en étant musicien, je pense, mais c'est ce que vous êtes, et...
Mais ça reste le réseau, ça reste, il y a...
Bah ouais, c'est fatalement, il n'y a pas de méritocratie, les frérots, ouais. Hein, désolé. Hein.
Il y en avait peut-être au début, mais...
Mais d'ailleurs, j'incluais dans les streamers, c'est-à-dire qu'il y a les streamers historiques qui, des années après, se mettent à la musique, mais aussi des musiciens qui se mettent à Twitch, qui deviennent streamers. On a évoqué Steve Stevens, par exemple, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt une réussite. Son audience augmente régulièrement. Là,
il fait des choses avec Ponce.
Avec Ponce, il va apparaître à un concert au Bataclan. Mais même d'ailleurs, parce qu'on a discuté de Ponce avant cette émission, autre aspect extrêmement intéressant, c'est... Un des plus gros streamers aussi de France, j'imagine, Ponce.
Bah, je pense qu'il est oui, top 5.
Top 5,
large, top 5 ouais, complètement.
Qui s'intéresse à la musique et qui même... Donc là, il va y avoir un concert au Bataclan où il a réuni des gens autour de son nom, des musiciens, ça. Etc. Et même, d'après ce que tu disais, un
là,
label.
Là, la construction, ouais, la release party en fait, de son label de musique. Donc
il monte un label
de
musique.
Orienté rock psychédélique. Et
donc, pourquoi pas
voilà qui correspond au garçon quoi parce qu'il a toujours un peu abordé ça et puis même il avait fait un live musical avec Tip Stevens okay. Pour ça et donc du coup ouais, il se lance dans le label donc c'est une nouvelle aventure donc ça va être marrant de voir ça et donc du coup je pense que
c'est dingue que c'est dire fou, qu'un streamer ouais. Lance un label ouais, musical
c'est ouf
ouais. Après en fait, je peux pas dire que Chrono et Pendred aussi enfin ouais. Cadillac et je sais plus comment
c'est
ils s'appellent
c'est pas leur label c'est pas leur label c'était avant.
Ouais, mais c'est vrai que se dire que tu commences à jouer à, tu sais, pour un peu caricaturer, tu joues à Pokémon dans ta chambre, et X années plus tard, tu montes un label de musique, quoi. Incroyable. Je veux dire, c'est des trajectoires aussi, et c'est ça, je pense, qui est intéressant, c'est que du coup, ça secoue complètement l'ordre établi. Ouais. De qui a l'argent, qui fait quoi, quels sont les, tu vois, au niveau média, où les gens se disent, putain, mais en fait, il y a ces mecs-là qui littéralement sortent de nulle part, ont tout monté, eux-mêmes, c'est-à-dire ouais. Que leur commu, ils l'ont construite eux-mêmes, il n'y a pas eu de push, il n'y a rien eu. Mmh. Tu peux te faire PL par quelqu'un d'autre, tu peux te faire, voilà, comme Samuel Etienne s'est fait aider, ouais. S'est fait carrer par étoile, etc. Mais je veux dire, un mec comme Ponce, il est arrivé, il a fait son truc, c'est monté de manière organique, et c'est des gens
par
qui,
reste,
du coup...
Il était sur le stream, oui. Je pense que du coup, il faisait... Enfin, excuse-moi, j'allais dire, il fait tâche dans le stream, mais je veux dire, je trouve qu'il... Il détonnait un peu de ce que le stream.
C'est pour ça qu'il
est pas
resté.
Sont attachés à ça.
Ouais, il est pas resté sur le stream.
Tu peux même pas dire qu'il s'est fait PL par la web TV.
Ah non, même
et
pas.
Comme ça,
non,
je pense
non,
que
non,
les gens
non.
Ont découvert et après, hop, il a construit tout seul.
Ce qui est génial, c'est que, bah, du coup, ces gens-là, ne doivent rendre de compte à personne.
Ouais.
Et ça leur donne une liberté de ton. Et on l'a bien vu quand Emmanuel Macron est arrivé, après le The Event, en essayant de dire, hey, les gars, bravo, la France est fière de vous. Tout le monde l'a envoyé chier en disant, bah, fallait être là avant, en fait, tu vois. Et, mais je pense que c'est personne dans les médias tradis qui pourrait faire ça. Hein.
Après, ce pouvoir, quand même, il est extrêmement réduit à c'est infime le pourcentage de streamers qui sont capables d'avoir,
cette
indépendance.
Ouais.
Et parce que financièrement, ça marche bien, mais bah, ils sont très peu, en fait, à pouvoir faire ça.
Bah, oui, mais... pourrait juste être millionnaire, fructifier ça et rien branler.
Ou alors rentrer dans le rang, c'est-à-dire, intégrer le showbiz classique, tout le monde se fait la bise, tout le monde se serre la main, vive le gouvernement, etc. Je veux dire, combien d'acteurs, combien de musiciens mainstream osent prendre la parole comme ce que Antoine Daniel ou Angle Droit ont pu faire vis-à-vis d'un président en exercice ? Aucun.
Ouais,
ou alors ça sera des mecs qui
vont
ça va être des gars qui seront déjà à la fin de leur carrière, qui seront déjà mis de côté, considérés comme has-been et qui vont peut-être utiliser ça pour faire le buzz.
C'est ça.
Alors que dans le cadre d'Antoine et Florence, ce qu'ils ont fait, Ils ont juste dit ce qu'ils pensaient à l'instant T, sans aucun calcul, tu vois.
Ouais, ouais.
Et moi, je trouve ça assez rafraîchissant de me dire que justement, ok, on parle d'une frange des streamers qui sont même pas les 1% de la plateforme. Ok, ils sont tous, si ce n'est millionnaires, en tout cas, ils vivent très, 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 très bien, d'accord. Mais il n'empêche qu'effectivement, ils auraient très bien pu...
Sauf un truc rock psyché, tu vois. Ouais. Enfin, si c'était un truc genre de calcul, déjà, il aurait pu faire du NFT, il l'a pas fait. Ouais. Mais déjà, il fait un truc rock psyché qui appartient à ce qu'il aime, et je trouve ça cool de savoir qu'il fait ça.
Mais ça, je trouve ça génial, d'autant plus que je suis pas sûr qu'un label de musique, ce soit ce qui te permet de faire d'argent. Tu vois.
Ouais. Donc, c'est très, très cool, clairement.
C'est très, très cool.
Tout en strikant ses propres... stream, ce bâtard.
Bon, oui, tu voulais dire.
Non, mais c'est cool. C'est cool. Bravo.
Bah, c'est cool. Non, c'est vrai. Bon, en tout cas, on a fait un bon point Twitch, je pense. J'espère qu'on n'a pas trop perdu les gens avec le langage un peu propre.
On a essayé de vulgariser.
Les deux, là, des fois.
J'ai essayé de.
Après, bah, que les gens fassent leur recherche. Je veux dire.
Il y a Google, merde.
Quel dénin.
C'est bon, quoi. Venant de ta part.
Non. J'ai été dur, un peu trop dur.
Non, pas du tout.
Non, en vrai,
tu challenges un peu au moins, et ouais, on est pour discuter en vrai.
Absolument, et en vrai, j'ai énormément de respect pour tout ce qui se fait sur Twitch. Non, c'est juste que je suis un peu moins la cible, tout simplement. D'ailleurs, peut-être que je prendrais plus de plaisir à en faire qu'à en regarder, paradoxalement, ouais, si c'est pas impossible. Mais c'est juste que c'est moins pour moi, il y a quelques trucs que j'aime bien, mais la grande masse de ce qui est produit sur Twitch.
Mais t'as des trucs qui sont pour toi et t'es pas au courant encore.
Ouais, certainement, c'est ça le truc. Très certainement. Non, mais le canal en lui-même, il est génial.
Ouais.
C'est juste le contenu français pour l'instant, il y a pas encore trop de choses pour moi.
Je trouve qu'il y a un petit switch qui s'opère, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on pourrait parler, il y avait des youtubeurs qui disent on ne sera jamais comme la télé. Ouais. Vous venez vraiment littéralement comme la télé, l'entre-soi c'est pareil. Après t'avais Twitch genre on ne sera jamais comme YouTube. Vous êtes littéralement comme YouTube. Vous êtes formaté aussi, tu vois. Enfin, tu vois, je pense que là on est à l'ère de la télé-réalité sur YouTube. Encore c'est un peu voulu. Il y a deux ans on était à l'ère de la télé-réalité sur YouTube. Enfin, il y a toujours les mêmes books, quoi. Et là j'ai l'impression que sur Twitch il y a un turnover qui s'opère un peu plus rapidement.
Ouais.
Et tout le truc un peu népotif, enfin le truc entre soi, ça peut tendre un peu à se casser. Enfin, en tout cas, il peut y avoir des. Enfin, je trouve qu'en ce moment il y a plus de trucs rafraîchissants. Enfin, moi je reprends du plaisir.
Les mecs verrouillent pas en fait.
C'est ça.
Et les gars, il y a un truc quand même qu'on n'a pas cité. De la musique sur Twitch. Il y a quand même la bouclette.
Mais oui, mais bien sûr.
Un coup de coup à toute la bouclette chez qui on est.
C'est incroyable.
Oui, merci de nous accueillir.
Tous les mardis soirs, live musical, la bouclette TV, ils mettent en avant la scène émergente française. Plein de lives de qualité.
Les artistes qui mangent pas, donc c'est ça la scène.
Bah oui, mais justement, mais ça aussi c'est la beauté du truc, parce que je peux te dire que la bouclette, je pense pas qu'ils mangent non plus avec ce live. Okay. C'est
on crève la dalle ensemble.
C'est pour la culture.
Mais sur Twitch,
on le fait pour la culture.
C'est beau,
absolument.
C'est beau. La bouclette.
Absolument. Bon, je pense qu'on continuera la discussion Twitch musique une autre fois avec un autre angle, peut-être avec quelqu'un qui fait de la musique sur Twitch justement.
Déjà, oui.
Ça peut éventuellement avec Tiff Stevens par exemple. Bon, l'invitation est lancée si tu veux venir. Avec Ponce, pourquoi pas, pour nous parler du label, ça serait passionnant aussi.
Ça serait très cool.
Donc voilà.
Essayons. Big Wayne aussi.
Pourquoi pas, effectivement, qui adore la musique, qui chante beaucoup, etc.
Et puis qui a même vécu des trucs de ouf quand même.
Ouais.
Enfin, je pense, tu t'es dans ta chambre et tu te retrouves au Zénith de Montpellier devant 6000 personnes ou à Montcuq.
À Montcuq, ouais. Ouais, c'est vrai.
Ce que je vous propose quand même, c'est avant de clôturer cette émission, parler un peu de ton activité de photographe, notamment parce que spécifiquement, ou en tout cas, tu te penches beaucoup sur la photo de concert, c'est ce que tu fais principalement, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
T'as été une formation, c'est ton métier initial, le photographe, avant de faire un peu tout ça sur YouTube, enfin sur Internet?
Non, enfin moi j'avais fait école une année de beaux-arts à La Réunion, donc c'est là où je me suis un peu familiarisé avec ce médium qu'est la photographie, tout ça. J'ai fait pas mal d'argentique et ça m'a un peu passionné, mais à côté de ça, moi j'étais beaucoup dans la musique, c'était un peu la période MySpace, où il y avait beaucoup de choses qui se créaient, une certaine proximité que tu pouvais avoir avec les artistes, plein de soirées, de bâtards, et donc moi je commençais déjà un peu à monter sur Paris pour voir les artistes et proposer mes services. Enfin, même, je proposais rien, j'étais là, je prenais en photo, quoi, je mettais sur mon MySpace. Et du coup, je prenais des photos d'artistes et tout ça. Après, je me suis lié d'amitié avec certains groupes de cette scène française. Et du coup, après, je suis monté sur Paris faire une école à Levallois. Là était le red flag. J'aurais dû voir très cher, où tu payais, enfin, mes sponsors payaient pour pas grand chose, quoi, à part faire des stages. Et encore. Enfin, au bout d'un an et demi, on n'avait pas ouvert Photoshop, tu vois. Donc,
ah oui.
Enfin, on était sur le macOS. Comment se servir tous les pommes C, pommes R. Enfin, bref, on s'en branle.
Un an et demi de.
Ouais, c'était atroce. Alors que là, les gobelins, à la limite, bah, en deux ans, c'est déjà fini, tu vois. Mmh. Bref, un peu saoulé, mais j'ai réussi à avoir un stage que j'ai réussi à avoir aux Inrock.
Ok.
Donc ça, c'est une grosse chance parce qu'ils étaient assez fermés là-dessus parce que justement, il y avait un souci qui s'était passé avec un autre élève de cette école, mais donc du coup j'ai eu cette chance là et donc du coup
pour
je suis
de la photo
pour de la là j'étais parti en icono, donc au service iconographique, donc le service dédié à trouver les images pour alimenter les articles et tout ça, et donc du coup j'ai eu la chance de pouvoir être envoyé sur des shootings avec les photographes, donc à assister les gens, donc j'ai quand même fait pas mal d'assistanat. Et après du coup j'ai arrêté l'école et j'ai commencé à piger pour les Inrock. Et tout de suite après, il y a Grazia qui est venu me voir, donc un magazine de plus mode. Mm-hmm. Donc moi, en parallèle, je faisais beaucoup de musique, mais dans la culture hardcore.
Okay. Ouais, parce que punk hardcore. La musique que t'aimes, c'est ça.
Bah
c'est...
le background, ouais. Comme dirait William DJ Snake, c'est plus rock, quoi. Okay. Effectivement. Même si après, c'était les années 2008-2009, donc c'était un peu new rave. Il y avait les Fluo Kids, Electro et de Banger qui pétaient, ouais. Trucs comme ça. Donc il y avait pas mal de fusion, on va dire, même si je déteste ce mot et ce genre musical. Mais du coup, ça m'a, puis même de rap et tout, enfin, c'était trop bien, donc du coup, je pouvais voir plein de choses. Beaucoup de boîtes aussi qui proposaient des trucs de ouf, les soirées Bus Palladium, le Showcase qui était un truc incroyable, enfin, bref. Et, donc là, je faisais ça, et du coup, j'ai commencé à travailler pour Grazia où je faisais des photos de street style. Donc, j'allais en soirée, photographier Kim Kardashian ou Justin Bieber.
Okay.
Un peu rigolo les premiers temps.
C'est marrant. Après, quand même.
Ouais,
le grand écart est total.
Grand écart est total. C'est un peu marrant parce que moi, je pense, le côté un peu midi net ou rat de star, comme dirait Oli de Bifoli. Mais après, c'est un peu un monde horrible, quoi.
Ouais.
Puis à un moment, tu retournes en boucle avec les mêmes hit boy, hit girl. Enfin, tu vois, c'est un peu human centipede, tu vois. C'est un peu fatigant, tu vois. Bon, des fois, t'as Kim Kardashian, Selena Gomez, c'est un peu rigolo. On te dit, bah là, tu vois, tu vas avoir Kate Moss et t'as le droit à une minute pour faire une photo. Il y a des trucs un peu challengeants, mais après j'ai perdu un peu la passion du shoot. Après je faisais un peu de portrait quand même, et après j'ai eu un peu de laisser aller. Je n'aimais plus trop ce que je faisais, quoi. Okay. Et par un heureux hasard, il y a Arte Concert qui font coucou. Donc on s'était rencontrés, je crois, sur un rock festival. Mm-hmm. Je crois que j'avais dû partager les photos et tout ça, et du coup viens taffer avec nous. Et puis depuis, ouais, ça va dater maintenant. De plusieurs années, du coup, je travaille pour Arte Concert et du coup, qui m'envoie sur des shootings comme ça. Donc, essentiellement du live. Et c'est vrai qu'au final, je m'épanouis de ouf. C'est pas là où tu te fais de la thune, même si je pense à être à l'aise, des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que je kiffe, où je trouve ça ludique, où tu découvres en plus pour ta culture perso des artistes. Voilà, aussi j'avais fait Real Fest, aussi j'avais fait photo, mais du coup je me concentre là-dessus, et puis du coup ça m'envoie faire d'autres boîtes de prod, sur d'autres projets. Donc là je fais aussi Platine Africa, qui est un programme sur TV5 Monde aussi, autour de la musique africaine et tout ça. Donc je fais Amadou et Mariam, Jupiter Okwele et tout ça, enfin des trucs trop bien. Donc je découvre plein de choses, et en tant que photographe c'est trop bien. Enfin, il y a un côté un peu guitare héros que j'aime bien, tu dois caler un peu les patterns, tu sais que là le batteur il va faire ça, la musique donc claque et tout. Vu que je travaille tout en manuel, donc tu fais ton point tout le temps, ce qui est pas un peu chaud.
C'est d'un point de vue purement technique. Alors moi je suis pas photographe, je maîtrise pas ça très bien, mais j'imagine qu'il y a une spécificité technique à la prise de photo live de concert.
Après spécificité, je sais pas articuler en fait. Je suis streamer, c'est ça. Elle vient des contraintes, oui, effectivement. Ouais.
En termes de luminosité, déjà, c'est pas la même.
Effectivement, c'est pour ça que fatalement je suis allé un peu voir ce qui se passait chez Sony, parce que ça te permettait des plages dynamiques plus grandes et donc du coup plus de luminosité, qu'on appelle les ISO, donc pouvoir plus monter en ISO pour dans les points sombres, voilà, et donc du coup aussi avoir plus d'optiques qui te permettent d'ouvrir pour avoir plus de lumière, ce qui fait des gros objectifs un peu lourds, pas très mieux, pas de friendly, mais on s'arrange. Mais après, moi je suis en mode vraiment roots, quoi. Enfin, tu sais, j'ai mes vieilles optiques de il y a 12 ans sur un Metabone, donc sur, enfin, c'est Canon que j'avais sur un truc Sony. Enfin, je suis genre comme ça, je me suis enlevé du côté nerd de genre il faut, parce que la photo tu vois je pense c'est comme les jeux vidéo au bout de 6 mois ton truc il est obsolète mais en même temps j'ai vécu un peu un switch où j'étais passé au 5D
et le Canon
et j'aimais plus ça quoi la photo tu vois donc là j'ai mon coup de cœur c'est vraiment pas le truc opti je pourrais faire des photos un peu incroyables mais je sais pas j'ai un certain confort et là je m'amuse et c'est trop bien. C'est trop
donc
cool.
Là, tu roules avec Sony maintenant.
Je roule avec Sony.
Comme
mais
beaucoup,
avec Optic Canon.
Avec Optic
Canon. Parce que
Canon,
je n'ai pas l'argent pour avoir les Optic Canon. J'ai essayé sur Twitter de dire je veux être ambassadeur Sony. Mais...
Ça n'a pas trop marché.
Mais ouais, mais donc du coup, moi, j'essaie toujours lier un peu, effectivement, ce que je faisais avec la musique. Quoi. J'ai toujours traîné dans ces milieux-là et à défaut d'être rockstar, je les photographiais. Quoi.
Ouais. J'imagine qu'aussi.
Et puis en plus j'ai rencontré des gens et des amis et trop cool. J'ai pu vivre un peu la vie de tournée, c'était trop bien. C'est pas ouf d'ailleurs la vie de tournée.
J'imagine que le fait
une émission là-dessus.
que le fait que ce soit en mouvement aussi ça change quand même les choses.
Ah ouais, bah c'est chaud hein.
C'est
surtout que là, tu peux pas dire au mec hey, stop.
Ouais, et puis même les gens qui font la light, tu vois. Parce que du coup effectivement ça bouge tout le temps donc c'est vrai je pense que si tu fais Vincent Delerme et Slipknot pour en venir, c'est un peu plus chaud quoi. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter de ouf et puis les lumières changent et puis aussi technologiquement, au niveau des de l'éclairage des salles, on est passé à des trucs plus LED, tu vois. Donc aussi sur son capteur, ça va jouer. Donc ça peut faire une espèce de tearing tu vois tu peux pas faire avec tu as une vitesse adaptée sinon tu vas avoir ton capteur qui est comme ça donc t'es obligé de t'adapter donc ça c'est un truc qui personne n'y a pensé mais maintenant vu que l'éclairage change bah t'es obligé de changer aussi. Donc tu dois toujours un peu t'adapter et du coup il y a un truc vraiment d'adrénaline parce que tu sais t'as des formats par exemple avec Jack White où t'as pas intérêt à te louper quoi parce que déjà accréditer c'est chaud bon tu sais que t'as pas le droit au crash barrière parce que sinon il va avoir un double menton il veut pas donc t'es au bac
en fait est-ce que tu le prends trop d'en dessous
c'est
et...
ça tout ça donc effectivement souvent on aime bien travailler sur les crash barrières mais des fois il y en a pas
on le voit quand même ton double menton
non et donc du coup là tu vois j'ai dû être Olympia sur le balcon pour 3 chansons donc là tu te dis t'as 3 chansons donc tu vois
pourquoi c'est limité à 3 parce que après on fait sortir de la salle
non voilà c'est ça.
Ouais
t'as pas le droit donc des fois t'as
c'est
3
pas sur la longueur du concert
non,
okay.
T'as des artistes enfin je sais que j'avais fait genre par exemple on m'avait mis sur Romeo Elvis enfin tu sais que t'as telle chanson sur la setlist tu vois donc ils te sont pas forcément au début
d'accord
parce que l'artiste veut pas spoiler ce qui se passe ou quoi que ce soit donc tu dis ah mon dieu j'ai 6 minutes
Moi je pensais vraiment ils t'ouvraient les portes et après tu te baladais.
Non, c'est trop chaud quoi. Okay. Donc tu vois, et puis il y a des fois il y a pas de crash barrière donc t'es dans le public donc tu dois essayer de pas trop faire chier les gens.
Je suis photographe.
Je déteste ça, tu vois, t'as des gens trop relous aussi. Des fois je suis trop relou aussi, après t'es comme ça parce que tout le monde donc je sais pas, c'est moi j'aime bien, c'est toujours un peu stimulant et puis un peu flatteur que je trouve Arte Concert me fasse confiance là-dessus et d'autres gens apprécient mon travail et pour une fois je me sens un peu fort dans quelque chose. J'ai l'impression que je fais plein de trucs. Non mais je fais plein de trucs et c'est bizarre, tu vois, de les gens comme toi comme nous, on est un peu plein de casquettes et tout ça et du coup t'as vite fait de te dire je fais plein de trucs mais je suis moyen partout, tu vois. Et du coup, t'as un peu un problème. Moi, je suis un peu...
Le syndrome de l'imposteur,
même si tu peux prendre tout le chose. Mais littéralement, on m'a traité d'imposteur et mes parents, je peux le dire. On m'a dit que je n'étais pas myopathe, ok? Donc ça bute le cerveau. Mais ma mère avait le syndrome de Mauthausen, qu'elle m'empoisonnait.
Ah oui, d'accord.
Ce qui peut laisser des séquelles. Mais ouais, du coup, le côté où genre, je veux me sentir bon quelque part, tu vois. Et vraiment, en photo, je me dis, ah putain, je suis chaud quand même.
Ouais.
Et que je vois ce qui se passe autour. Ah putain, je suis chaud quand même.
Comment
ça fait plaisir. Voilà, c'est rare.
Comment on a une patte
je flexe.
Comment on a une patte en tant que photographe live? Parce que j'imagine que c'est pas les mêmes conditions que lorsque tu fais du shooting, préparé, etc. Ou là, j'imagine que c'est un peu plus facile de mettre de ton identité. Après, je connais pas bien la photographie, hein. Mais j'imagine que c'est plus complexe.
C'est chaud, hein. Même moi, je pourrais pas trop dire. Mais après, je vois aussi ce que j'essaie de me comparer aux autres. Ou que tu vois fatalement les gens donc ils vont être en full auto avec des trucs c'est des javelines ils vont faire mitrailler
alors rafale quoi
t'es genre ouah comme ça mais donc du coup je pense tout ton taf tu le fais à l'editing plutôt que développement de ta photo parce que moi on va dire que moi ce que je fais en live ça va être 40% du taf tu vois parce qu'après donc fatalement t'as l'editing et après moi je fais mes retouches et surtout que bah tu dois le faire, je fais mon shooting et le lendemain je dois livrer les photos donc tu vois il y a un truc de timing. Donc je sais pas est-ce que ça va là où moi je suis tout manuel donc voilà je vais mesurer un peu plus, j'ai un truc un peu, je viens de l'argentique donc je sais pas, je mesure un peu plus. Le côté manuel aussi parce que donc cette contrainte où aussi fatalement tu quand ton diaphragme tu vas le fermer tu vas avoir plus de netteté enfin de profondeur de champ donc tu peux rattraper de la netteté alors que si t'es à 2.8 bah tu vois entre si je suis loin ton nez et ton œil il va être flou tu vois donc ça c'est un truc à la con que je me donne tu vois donc c'est vrai que moi je
ouais, tu te forces en fait.
Je me force à faire ça et surtout que moi je trouve qu'il y a une mode dans la photographie de concert, c'est beaucoup de fisheye qui vont se concentrer sur l'habillage autour, tu sais, les Jean-Michel Jarre, la lumière. Et moi je suis au 70-200 donc il y a les gros objectifs et gros zoom et moi j'aime bien me concentrer sur les visages quoi. Donc je me casse un peu la nénette donc je pense que dès là je peux peut-être tirer ma patte tu vois. Après moi je sais que j'aime bien les trucs un peu sous-exposés. J'aime pas quand c'est criard ou quoi que ce soit. Et après, ouais, tu fais ton étalonnage, on va dire. Et après, donc, du coup, au fur et à mesure des années, bah, t'as tes presets faits. Et des fois, des hasards, tu vois, parce que du coup, je me dis, ah, bah, j'ai cette session-là que j'avais fait pour Jack White. Je prends, moi, je suis une merde, hein. Même j'ai pas de NAS ou tout comme ça. Moi, j'ai mes disques durs, ça brûle, j'ai plus de photos de ma vie, je suis la pire des merdes. Et tu vois, j'ai pas ma banque de presets. Moi, je vais prendre, ma dernière photo que j'ai exportée, je fais copier-coller, je mets sur ma nouvelle photo. Je dis, ça va pas, donc du coup, après, je raffine. Donc, tu vois, donc ça fait vraiment 10 ans que j'ai mon preset qui évolue. Et du coup, il y a un truc peut-être impalpable, une magie.
La même chose
fait.
En vidéo.
Non, mais tu vois.
Des précédents projets à fond et tout.
Et donc, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de hasard. Et après, il y a la mémoire musculaire.
C'est de l'organique.
Et de la façon. Enfin, tu vois, je sais que bah, on se posait la question. Est-ce que comment tu laisses l'air et trucs comme ça. Moi, je sais que j'aère. J'aime bien aussi décentrer mes sujets ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est un truc très personnel. Je sais pas. Mais je pense que la patte, elle vient de là et. Et voilà, après je suis le pire pour me vendre. Et
non mais
tu vois, j'ai jamais fait d'expo de ma vie, j'ai jamais démarché de ma vie parce que je suis un couillon, tu vois. Mais en tout cas, merci à Arte Concert de me faire confiance et tout ça quoi. Mais je m'amuse et la musique c'est trop cool.
Il y a du taf dans la photographie comme ça de concert où c'est compliqué, il y a peu d'acteurs, peu de mecs sur les plans.
Bah il y a une époque, tu sais, c'est sur Paris, il y a un moment, tout le monde est devenu DJ. Il y a une époque où
tout le monde était photographe.
De t-shirt, enfin, Wested ou je sais pas quoi. Et à un moment, il y a tout photographe. Enfin, il y a plein de monde.
Ouais.
Parce que aussi, il y avait un truc où c'était plus abordable d'avoir un bridge ou un truc comme ça. Donc, beaucoup de choses.
Avant les bridges, hein. À l'époque du 5D, là, il y avait des communautés de photographes. Il y avait des blogs. Il y avait plein de trucs où,
Ouais, bah là, le bridge, moi, je sais que j'avais un bridge. C'était tous les potes blog où il y avait aussi Cobra Snake à l'époque. Donc, t'avais une culture qui était très liée à MySpace, tu vois, où l'imagerie autour de ça était très importante. Enfin, les photos de Cobra Snake, tu sais que c'était l'époque Fluo Kids. Il fallait se montrer aussi. Donc, t'avais de plus en plus de photographes. Donc ça c'est très à cette époque-là et j'ai l'impression qu'il y a un peu moins, mais je pense pour se nourrir la photographie de concert, ouais c'est rare je pense.
C'est niche un peu.
Ouais après tu vois il y a des gens passionnés, enfin cher Robert Gilles, je le vois à tous les concerts, ça va faire je sais pas presque 20 ans et je pense que c'est du pur bénévolat, je sais pas comment il fonctionne mais toujours là, je pense que ça joue sur la passion mais. Ouais, vaut mieux faire de la pub ou du pack shot si tu veux, si tu veux gagner tes thunes.
Bientôt, t'auras plus besoin de le faire, il y aura une IA qui le fera.
C'est ça, exactement, quoi. Voilà, on va me remplacer. Non, mais, après, c'est vrai que sur Arte Concert, je vois pas beaucoup de gens autour accrédités, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'accréditation. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était très pénible, où limite, le front row, t'avais 45 photographes.
Ouais.
Et ça peut être un peu pénible pour tout le monde, tu vois.
Okay.
Et prendre moins de plaisir. Voilà, je m'épanouis là-dedans, en tout cas.
Bon Pierre, c'était super intéressant
j'espère.
Merci c'était beaucoup
cool,
d'être venu nous voir, avec plaisir. On continuera toutes ces discussions, je pense, avec d'autres visions, etc. Que ce soit sur Twitch, avec peut-être une vision de musicien, Tip Stevens, Ponce, comme on le disait, venez les gars. Sur la photographie aussi, le clip notamment, j'aimerais un jour qu'on reçoive des gens qui font du clip, etc. Pour en discuter.
Par exemple, Romain Gavras qui a fait un clip d'une heure et demie là dernièrement.
C'est ça.
C'est vrai.
Non mais il y a beaucoup de Français. Je sais pas, ABCDCD qui est un bon collectif, Méga Force. Si tu peux avoir des gens de méga force, ce serait fou.
Eh ben, écoute, je vais noter tous ces noms après.
Ils ont fait des trucs iconiques.
Mais tu sais quoi, il y a des gens avec qui j'aimerais discuter, ça peut être complémentaire, hein. C'est, ce que j'ai découvert, qu'il y a une grosse boîte de prod vidéo qui fait du clip pour Booba, pour d'autres gens, etc., qui a été montée par les anciens mecs de la Team Nowhere.
Ah, bien sûr.
et alors et je crois que c'est HK Prod
bien sûr.
HK Prod absolument. Ouais. En fait, c'est des mecs qui étaient dans le milieu, tu sais, un peu néo-métal français à une époque, Enhancer et compagnie. Et qui en fait ensuite se sont reconvertis, je sais pas, mais en tout cas sont mis vraiment dans la prod à fond et qui ont ouvert même, disons, des bureaux aux États-Unis maintenant. Et ils font beaucoup de grosses prod vidéo. Et j'aimerais discuter avec ces mecs comment on passe de, tu vois, de la team Nowhere.
Bah ouais,
à
après
faire de la prod américaine.
Visuel, ils étaient très chauds là-dessus, ouais.
Incroyable.
Tu vois, bah, mais ouais, bah oui, ouais. Après ils sont accessibles.
Tu les connais ou
Je pourrais te donner des moyens de les avoir, y a pas de souci. Bah,
avec plaisir.
Ouais. Je connais bien. Des gens qui travaillent chez HK Prod. Ben oh là là, let's go.
Incroyable, les connexions. Est-ce que, avant de se quitter, les gars,
ouais.
On s'était dit qu'on allait faire maintenant les petites recos musicales à chaque fois, et qu'on écoute rapidement et tout.
Ouais.
Pierre, tu veux commencer?
Allez.
Moi, oui, un artiste qui s'appelle Gene Dawson, et qui est un pur produit de son époque, mais j'aime bien ce qui se crée en ce moment.
Ouais.
C'est à savoir, donc, comment on parlait de fusion, on va dire. Mais je veux dire de regroupement d'influences culturelles musicales, et je trouve que c'est un peu le produit, donc un peu de rap, un peu de rock, un peu de punk,
de la fusion, quoi.
Ouais, non mais tu vois, fusion pour moi, tu vois, pour moi fusion, oula, déjà je sature, mais fusion, tu vois, c'est Chaka Pong, tu vois, et ça me donne envie de crever, tu vois.
Bah les gars, on s'écoute un petit coup.
Faudrait qu'on ressort Chaka Pong aussi pour
Jim Dawson.
Porn acting
qui est, tu vois. Ah ouais, on est dans les 90s là.
Hein. Ouais, j'aime trop ce qui se passe. Mais en fait, c'est... Bah, qu'on en parlait aussi en off, c'est depuis Hot Future qui avait ramené un peu le skate dans le hip-hop et tout ça, donc l'imagerie autour. Et là, avec TikTok, le renouveau de la scène emo de 2006, couplé avec ce qui s'est passé avec Lil Peep qui a ramené un peu metal ou Juice WRLD ou trucs comme ça. Et je trouve ça incroyable de voir des éléments
que des
garage,
morts.
Que des gens morts, hélas.
Que des gens morts.
Mais donc, du coup, je trouve qu'il y a un truc excitant qui se passe. Et je trouve Gene Dawson en tête de file, donc qui vient de sortir un nouveau projet qui s'appelle Pirate Radio et qui va sortir un nouvel album.
Okay.
Et j'aime bien ce qui se passe.
Très bien.
Voilà, en ce moment.
Gene Dawson, voilà. La Rocco de Pierre Lapin. Toi, Daz, qu'est-ce que t'as envie de mettre en avant comme morceau?
Moi, je suis toujours dans ma phase où tu me mets un sample et tu rappes dessus. Je suis content.
J'ai l'impression que cette phase va revenir souvent dans les
recours. Oui, parce que c'est très chill et c'est les musiques qui te donnent envie de fumer, même si tu fumes pas, tu vois.
Okay.
Et là, c'est un morceau qui s'appelle Get Lifted de V-Don, qui est un producteur et qui s'entoure là de A$AP Ant, donc là, un membre de la A$AP Mob,
okay.
Et de Trey the Truth. Très la vérité, un rappeur de Houston, et bah du coup il y a une vibe Houston, un peu chop and screw à l'ancienne. Les gens de TikTok vont dire, ils ont un autre nom maintenant pour qualifier cette musique là.
Ok.
Tu sais, mais quand tu ralentis le, tu
ah
tu,
oui. Voilà. Oui
Nous on appelle ça chop and screw parce que DJ Screw en 95. Mais
dire, c'est quoi, c'est nightcore. Non, nightcore, ouais. C'est que t'accélères happycore ou décor. Voilà. Ça peut être après ça. Tu pitches, mais plus.
Alors, je connaissais le chop and screw, mais.
Mais chop and screw, ça l'utilise aussi un peu. Slow, non, c'est. Pardon, c'est encore plus simple que ça.
Slow and reverb.
Oh, voilà. Non, ça, c'est un effet YouTube, ça, non, c'était pas.
Mais voilà, c'est ça, t'as raison, parce que là, ils sont tous, bah même Ghost que t'aimes, ils ont fait slow and reverb et de tout.
Mon dieu, alors que ça fait 30 ans.
Oui.
Allez, on s'écoute V-Don, Get Lifted.
Et là, ça va ralentir. Ah. Avec quand même des petits charlets trap. Hein. Ah là, tu te mets bien, là. T'es...
Moi, ça donne envie de prendre du drogue, effectivement.
Ah, bah, je plane.
C'est bien Saturax, par contre, quand même. Enfin, c'est un entre deux.
Oh, les... bah, la 808.
Ah. Très cool.
Et alors bon. Toi là du coup?
Ouais, chaque fois je suis un peu frustré, mais en vrai, comme on est sur YouTube aussi, j'ai pas envie de mettre plus d'extraits. Déjà, j'espère que ça va pas nous poser de problème.
C'est
relou. Bah moi j'hésitais entre plusieurs trucs.
Sinon tu visais que des artistes morts.
Ah,
ou
c'est vrai.
Pas percé.
C'est... Mais non, mais il y a toujours des ayants droit même s'ils sont morts. Hein, ouais, tu sais. Malheureusement. Bah moi je suis. C'est pas très original, mais effectivement, comme tu le citais, je suis dans une période où je me réécoute du Ghost. Je sais pas pourquoi. Et j'avais découvert ça il y a 5-6 ans,
Je les ai vus ensuite en concert et tout, et j'ai trouvé ça très très bien. Je suis moins fan, ils viennent de sortir un album, je suis un peu moins fan du dernier album qui est, ça y est, ils ont toujours eu un côté pop, mais là on est vraiment, on disait tout à l'heure, pour moi c'est un mélange entre ABBA et Black Sabbath. Et là, ça, le côté ABBA prend quand même beaucoup le dessus. Mais en vrai, j'aime bien quand même un peu, tu vois.
Sûr, ouais.
Et donc bref, on se met un petit morceau de Ghost, allez. Ce qui me fait chier, c'est que le morceau dure 6 minutes et en fait il évolue énormément, il est très court. Donc l'intérêt, c'est de l'écouter dans son intégralité. C'est Sea Riche de Ghost.
6 minutes, c'est rare de nos jours.
À part dans la musique arabe.
C'est vrai, c'est vrai.
1h40. Petite référence aux précédents épisodes.
Ah oui, d'accord, ok.
Et en fait, tu vois, la simplicité et l'élément. Alors, c'est plus truc Guitar Hero. J'ai jamais arrivé à trouver le moment.
Ah, c'est Bohemian Rhapsody un peu. Ok.
Absolument, il y a des évolutions. Ouais. Tu vois le côté Black Sabbath en contrebas?
Ouais, on est là-dedans. Ça me donne envie de piercing à l'arcade et de m'appeler Drazik aussi.
Bon, voilà, Spirit Chez Ghost. Les gars, allez, ouais, je crois que là on a fait le tour.
On a fait le tour.
On va libérer Pierre.
Merci de l'invitation.
Bah c'était très cool. Merci à
c'était
toi d'être
très
venu.
Chouette, très chouette de t'avoir.
N'oubliez pas de partager sur YouTube, sur les réseaux,
liker,
etc. Sur les plateformes audio aussi. On pense à vous. Alors parfois on fait référence à la vidéo, mais on pense aussi à l'audio. Moi j'aime bien quand même appeler ça de podcast parce que c'est des mecs autour d'une table qui discutent. Okay. Après oui, on met des caméras en plus, c'est vrai. Mais on pense aux mecs de l'audio, on essaie d'avoir un son correct, etc. Et je me demande même si c'est peut-être pas la meilleure façon de consommer des
vidéos. Ouais, Spotify maintenant, t'as le player vidéo. Hein.
Absolument. Et on va s'y mettre. On compte bien le faire. Absolument.
La Fabuleuse, ils ont fait un des premiers podcasts vidéo.
En France, c'est arrivé aussi.
Ouais. Fabuleuse avec Bilal Hassani, Spark Dice et tout ça. Maintenant, tu peux visualiser dans le player Spotify.
Et bah, on va le faire. Merci la bouclette aussi, évidemment.
Merci la bouclette.
Pour la bouclette.
Et commentez sur quelle est la meilleure saison de l'année pour le référencement en commentaire.
Oui, absolument.
Ouais, c'est très important. Oui. On en a rien à foutre.
Mais est-ce que c'est l'été? Peut-être.
Oh, l'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid.
Merci Daz aussi.
Merci Salman, merci Pierre, c'était cool.
Merci à François aussi qui va monter l'émission. Merci mon gars.
Force à toi.
Merci Thomas. On fait plein de merci. Merci Thomas aussi de nous aider à faire cette émission.
Merci Thomas.
On se retrouve dans 15 jours.
Allez.
Ciao tout le monde. Bye bye.